السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا. En cette soirée du samedi 11 ربيع الثاني 1431 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 27 mars 2010 بإذن الله تعالى. طيب, nous sommes toujours avec le livre Les fondements de la foi, et dans le troisième cours, Inch'Allah Ta'ala. Attendez que je vérifie. Dans le quatrième cours, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, on parlait de la croyance, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. On avait dit que pour que quelqu'un croit vraiment en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fallait quatre choses. C'est-à-dire croire en son existence, croire en sa seigneurie, croire en sa divinité, et quatrièmement, croire en ses noms, ses bons noms, ses plus bons noms, et en ses attributs. Et c'est le cours, Inch'Allah Ta'ala, d'aujourd'hui. Enfin, on dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalatu salam, ala ashraf al-mursalin, on commence Allah. Donc le fait de croire en Allah Azza wa Jalla et en ses attributs, cela consiste à confirmer uniquement les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala cités dans le Coran et la Sunna authentique, selon le sens approprié et voulu par Allah Azza wa Jalla et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je répète, il faut confirmer, c'est-à-dire ne rien inventer de sa tête, mais confirmer uniquement et attester les noms et les attributs qui se trouvent dans le Coran, et on a bien dit la Sunna authentique, pas le hadith faible, la Sunna authentique. Voyez, maintenant qu'on a reconnu ou l'a confirmé tel et tel nom, tel et tel bon nom d'Allah Azza wa Jal, d'après un verset ou d'après un hadith, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas faire quatre choses avec les noms et les attributs. Quatre choses. La première, il ne faut pas faire le tahrif, c'est-à-dire la modification. Non. Deuxièmement, il ne faut pas faire le ta'til, il ne faut pas faire l'annulation du sens. Troisièmement, il ne faut pas faire le tekif, c'est-à-dire ne pas décrire la manière de ces attributs sans fondement. Et quatrièmement, ne pas faire le temthil, c'est-à-dire ne pas faire ressembler Allah Azza wa Jal à ses créatures. Si jamais il manque une de ces quatre choses, ça veut dire on n'a pas vraiment cru en Allah subhanahu wa ta'ala et en ses attributs. Ça veut dire tout simplement que yani, notre croyance dans les noms et dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas celle de Al-Sunnah ou Jama'a. Car Al-Sunnah ou Jama'a, dans les attributs, qu'est-ce qu'ils font pas? Ils font pas quatre choses. Ils croient en les attributs sans faire de modification, tahrif, et l'altération du sens, sans faire le ta'til, l'annulation du sens, sans faire le tekif, décrire, et sans faire le temthil, ressembler. Allah Ta'ala dit dans le Coran, surat A'raf, verset 180, il a dit, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms. Et laissez ceux qui profanent ces noms c'est-à-dire ceux qui dévient, c'est-à-dire ceux qui dévient de la voie correcte, en ce qui concerne la foi et les noms, en ce qui concerne la foi, en les noms et les attributs de Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit de la ta'ala, il a dit, et laissez ceux qui profanent ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, yom al-qiyama, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Donc, pour donner un peu, c'est-à-dire expliquer un peu, lorsqu'on a dit qu'il ne fallait pas faire quatre choses, on a cité la première, qu'il ne fallait pas faire le tahrif. Le tahrif, c'est la modification. Modifier un nom, bien modifier un quoi, un attribut. Et la modification, elle peut se faire bon, c'est en ajoutant au mot ou en retranchant quelque chose, comme elle peut se faire en altérant le sens du mot. Je donne un exemple du tahrif, de la modification. Par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans plusieurs versets, aussi dans les hadiths, que Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala l'arsh. Istawa ala l'arsh. Avant cela, alhamdoulilah, vous m'entendez sur l'inspect. Allah subhanahu wa ta'ala a cité que, qu'est-ce qu'il a fait? Istawa ala l'arsh. C'est-à-dire, il s'est établi. Ou, il s'est élevé. Il s'est élevé sur le trône, au-dessus du trône. Taïb. Istawa. En arabe, ça s'écrit comme ça se prononce. Istawa. Certains, comme les Ash'arites par exemple, on dit, on ne va pas dire istawa. On va dire istawla. Au lieu de dire istawa, ils ajoutent un L seulement. Un L entre le wa et le a. Au lieu de dire istawa, ils disent istawla. Ils ajoutent juste une petite lettre, un L. Pourquoi? Ils disent, si on va dire istawa, ça veut dire il est au-dessus du trône. Si on va dire il est au-dessus du trône, ça veut dire on l'a mis dans un endroit. On l'a mis dans un endroit, on l'a placé dans un endroit. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être placé dans un endroit. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire istawla. Istawla, c'est-à-dire que il a conquis. Il a conquis le trône. C'est pas il s'est élevé au-dessus du trône. Donc ils ont ajouté juste quoi? Juste une petite lettre, le L. Naam. Et en ajoutant ce L, Sunnah al-Jama'a 10-2, ils sont sortis du Minhaj Sahih. Ils les ont fait sortir du Minhaj Sahih de Sunnah al-Jama'a en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'en ajoutant un L, en changeant le mot, donc ils ont changé aussi son sens. C'était stawa, c'est élevé. C'est devenu un conquis. Zama, zama, zama. Yani, ils connaissent le Coran mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être mieux que Allah ta'ala lui-même, qui a employé le mot stawa. Zama, pour que Allah subhanahu wa ta'ala ne soit pas dans une place. Et nous, on leur dit, qui vous a dit qu'il était dans une place? Istawa, il s'est élevé au-dessus du trône sans se mettre dans une place. Naam, Allah ta'ala, il ne faut pas le comparer à nous. Naam, si on s'élève au-dessus d'une chaise, là, ça veut dire qu'on est... On est dans une place. Allah Ta'ala ne nous ressemble pas, on ne lui ressemble pas. Ensuite, on leur dit, quand vous avez dit Staoula, donc ça veut dire conquérir. Allah Ta'ala a conquis le trône. Et s'il a conquis le trône, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a fait la guerre. Non, il a fait la guerre à un autre Dieu. Ensuite, Allah Subhanahu wa Ta'ala a fait quoi? A gagné et a conquis le trône. Donc il y a un autre Dieu. Donc, Allah Ta'ala ne va pas faire la guerre avec les êtres humains. Il l'a fait avec un autre Dieu. Le fait, Sunnah al-Jama'a, dans les noms et les attributs. Donc, ça, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit, tahrif. C'est la modification. Et la modification, comme je viens de dire, elle peut être dans le mot lui-même, en ajoutant ou en retranchant quelque chose du mot. Ou elle peut être aussi dans quoi? Elle peut être dans le fait de reconnaître et laisser le mot tel qu'il est, mais lui changer son sens. Comme ils disent, par exemple, de la main. Ils disent c'est quoi? Ils disent c'est la puissance. Ce n'est pas la main, c'est une puissance. Et ils disent de la descente, que c'est pas de la terre qui descend, c'est l'ange. C'est comme ça. Non. Ils disent du rire, quand on dit que l'ange prénom est elle rit. Non. Ils disent que c'est pas le rire, c'est l'agrément. Non, c'est la volonté de récompenser. Et comme ça. Tout ceci rentre dans quoi? Dans le tahrif. Quant au ta'til, Le ta'til qu'il ne faut pas faire, c'est l'annulation du sens. Le ta'til, c'est dire carrément, nier carrément que Allah subhanahu wa ta'ala a tel ou tel nom, tel ou tel nom, ou tel attribut. Ça s'appelle ta'til. Et ce qu'il ne faut pas faire aussi, troisièmement, c'est tekif. Tekif, nam. Par exemple, on dit, comment tu dis? Tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala descend. Il te dit qu'il descend. Tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala rit. Tu dis comment qu'il rit? Nam, avec quoi? Avec une bouche, avec des lèvres. Comment qu'il rit? Et comme ça. Tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, se met en colère. Tu dis comment? Chaque attribut que tu veux confirmer, ils te disent comment. Le comment. Le comment, hein, ça, Al-Sunnah al-Jama'a ne le font pas. Et tout le monde connaît ce qui s'est passé entre Imam Malik, al-Rahmatullah, et l'innovateur qui est venu lui dire comment Allah subhanahu wa ta'ala Rahman s'est-il élevé sur le trône. Et l'Imam Malik qui lui a dit que l'élévation sur le trône n'est pas inconnue, c'est-à-dire elle est connue. Hein, et que le comment n'est pas connu, majhoul. Ensuite, il a dit, et le fait de demander une question pareille, c'est de la bida. Donc, la bida, c'est quoi? Ce n'est pas de demander est-ce que Allah Ta'ala s'est établi, mais de demander comment s'est-il établi. Parce que les Ahbashoulay vont dire que, ici, l'imam Malik lui a dit, c'est bida de poser cette question. C'est pas vrai. Non, c'est vrai. C'est-à-dire, il lui a dit, c'est bida de poser. Consultation verset 11. Ensuite, le Cheikh Rahimallah dit, deux groupes se sont égarés au sujet de la foi en les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Deux groupes se sont égarés. Le premier groupe, c'est qui? Les Mu'attila, les annulateurs. Mu'attil. Ce sont ceux qui ont renié totalement ou partiellement les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla en prétendant que le fait de les confirmer, ça oblige le musulman à faire ressembler Allah Azza wa Jalla à ses créateurs. Cheikh dit, rahimahullah, et cette prétention est réfutable pour différentes raisons. Nous nous contenterons d'en citer deux. Donc, le mu'attila, c'est qui? C'est un groupe très connu. Les annulateurs, tu lui dis, là, descends, il te dit, descends pas. Tu dis de rire pas. Il a deux mains, il n'en a pas. Et comme ça, pourquoi? Il te dit, si tu dis ces choses-là, tu as fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Donc, il s'appelle Mu'attila. Il nie. Le Cheikh va citer au moins deux raisons pour réfuter leur mauvaise aqida. Il dit, premièrement, leur raisonnement implique nécessairement de faux principes. Comme le fait d'affirmer qu'il existe des contradictions dans la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire le Coran, alors que Allah s'adjuge des noms et des attributs et confirme dans un même temps que rien ne lui ressemble. Non, on va leur dire, donc, subhanallah al-adhim, vous connaissez Allah subhanahu wa ta'ala mieux que lui, vous connaissez Allah ta'ala mieux que son messager. Lui-même, Azza wa Jal, s'est adjugé des noms dans son Coran. Par exemple, il a dit, sur Shura, verset 11, il a dit, rien ne lui ressemble, pas de sang sur le pain. Taïb, on m'a dit qu'on ne m'entend pas ici, Moustem, on ne m'entend pas sur le pain. Est-ce que vous m'entendez sur le pain, Tok? Moustem, est-ce que vous m'entendez? On m'a dit qu'on n'entend pas. De toute façon, Moustem, tu ne peux pas savoir tout seul. Il faut... Muslim, tu peux pas savoir tout seul parce que tu diffuses. Ou là, je ne sais pas, il faut enlever le rouge à quelqu'un. Femme, il faut enlever le rouge à quelqu'un, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, on ne sait pas depuis combien de temps il n'y a pas de son sur le partok. S'il faut refaire le cours du début ou là, c'est juste maintenant. Cette femme va le déraider quelqu'un pour savoir. On attend, Inch'Allah Ta'ala, que yani, on soit sûr, Inch'Allah Ta'ala. طيب رياض، depuis quand il n'y a pas de son, inshallah, sur Partok؟ نعم، le son, يعني, il y avait du début, pendant le début, inshallah. Moins de 5 minutes. 5 minutes, c'est beaucoup. Hein. طيب, je répète donc, inshallah ta'ala, la dernière, disons, la dernière chose importante. La dernière chose importante. Riyad, reste avec nous, inshallah ta'ala, avec le numéro 1. Donc, deux groupes se sont égarés, au sujet de la foi, en les noms et en les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier groupe s'appelle Al-Mu'attila, les annulateurs. Les annulateurs, ça englobe qui d'abord? Les Jahmites, les Mu'tazilites, ensuite ça vient les Ash'arites de nos jours. De nos jours, les Ahbash, les Rawafid, les Shi'ar, tout cela rentre dans les annulateurs. C'est quoi les annulateurs? Ce sont ceux qui ont renié totalement ou bien partiellement les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. En prétendant que le fait de les confirmer, ça oblige le musulman à faire ressembler Allah Ta'ala à ses créatures. Ils disent, si tu dis Allah Ta'ala il a une main ou la deux, ça veut dire que tu l'as ressemblé aux créatures. Si tu dis qu'il rit, ça veut dire que tu l'as ressemblé. Si tu dis qu'il descend, tu l'as ressemblé. Il se met en colère, tu l'as ressemblé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous, on renie ces noms-là et ces attributs. C'est pour ça que les savants les ont appelés Al-Mu'attila. Les qui? Les annulateurs. Ensuite, sachez entre parenthèses, que tout annulateur, Mu'attil, est en même temps un anthropomorphiste, un mushabbi, un ressembleur. Tout annulateur est un ressembleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi il a annulé? Pourquoi il dit non? Je renie la main d'Allah, je dis pas il a une main. Pourquoi il a dit ça? Il a dit ça parce que dans son cœur, il a fait ressembler Allah Ta'ala aux créatures. Il a dit que, donc, s'il a une main, donc il ressemble aux créateurs, aux créatures qui, elles aussi, ont des mains. Donc, moi, je renie, je dis, il n'a pas la main. Si je dis, il rit, ça veut dire que, donc, je l'ai ressemblé aux êtres humains, par exemple. Les êtres humains rient. Donc, je vais dire, Allah Ta'ala ne rit pas. Et comme ça. Taïb, Cheikh dit, Rahimahullah, Cheikh Ibn Uthaymeen dit, et cette prétention est réfutable. Pour différentes raisons, nous allons en citer deux. La première, leur raisonnement implique nécessairement de faux principes, comme le fait d'affirmer qu'il existe des contradictions dans le Coran, alors que Allah Ta'ala s'est adjugé des noms et des attributs et confirme dans un même temps que rien ne lui ressemble. C'est pour ça que nous, on va dire à ces gens qui renient les attributs d'Allah, on va leur dire, donc vous connaissez Allah Ta'ala mieux que lui. Pourquoi lui, il s'est donné des noms et il s'est fait appeler par ses noms. Et mieux encore, il nous a demandé de l'appeler par ses bons noms. Alors, comment se fait-il? On va croire qu'il y a vous, Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Regardez par exemple le verset. Le verset sur Shura, verset 11. Regardez bien ce verset. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Et il est l'audient et le voyant. Le voyant, ça veut dire aussi le clairvoyant, celui qui voit. Donc, regardez Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit. En même temps, il a dit, rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. Et, subhanallah al-adhim, en disant rien ne lui ressemble, il a dit en même temps, c'est lui l'audient et le clairvoyant. C'est-à-dire, en reniant la ressemblance à ses créatures, il s'est adjugé deux noms. Il s'est dit, c'est lui, c'est-à-dire c'est moi, l'audient et le clairvoyant. Donc, Allah Ta'ala veut nous montrer que, en même temps, on peut joindre entre deux choses. Lesquelles? Ne pas. Si on dit que il a les noms, l'audient, le clairvoyant, etc., ça veut dire qu'on l'a fait ressembler. Non. Donc on choisit, ou bien on dit, il a les noms, et alors on l'a fait ressembler, ou bien on dit, il n'a pas les noms, il n'a pas les bons noms, il n'a pas les attributs, surtout les attributs. Et comme ça, on ne l'a pas ressemblé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ بِإِذْنِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, a guidé les gens de la sunna, les sunna ou jama'a, et les a guidés, et a étendu leur poitrine, de façon à ce que ils peuvent joindre à des premières réfutations. La deuxième dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, deux choses ayant les mêmes noms et les mêmes attributs n'inclut pas obligatoirement qu'elles soient identiques. Par exemple, les animaux ont des yeux, des mains et des pieds. Et ce point commun dans la dénomination n'implique en aucune façon que leurs yeux, leurs mains et leurs pieds soient similaires. Ensuite, il dit, rahimahullah, le pied d'une fourmi est-il semblable au pied de l'éléphant? En parlant d'une fourmi, on dit elle a un pied, par exemple, elle a le pied. En parlant d'éléphant, on dit il a le pied. Est-ce que le pied d'éléphant est semblable à celui de la fourmi? Est-ce que le pied d'éléphant est semblable à celui du singe, à celui de la girafe? Et pourtant, elle a un pied, lui, il a un pied. Mais ce ne sont pas les mêmes. Il dit, par conséquent, si cela est clair et évident entre les créatures, il l'est d'autant plus entre Allah et ses créatures. Donc, comme j'ai dit la fois passée, il y a un point commun. On dit en arabe, le qadr al-mushtarak. Un point commun entre quoi? Entre, yani, la main d'Allah et notre main. Naam, la jambe d'Allah, la nôtre. Les yeux d'Allah, les nôtres. C'est quoi le point commun? C'est, yani, la ressemblance dans quoi? Dans, yani, le fait, dans la prononciation. C'est tout. Comme je dis main d'Allah. Main de yani, d'un animal. Naam. La main d'un singe. J'ai dit donc main en ce qui concerne Allah, main en ce qui me concerne, main en ce qui concerne le singe. Mais chacun de nous, les trois, a une main différente de l'autre. Chacun a une main qui lui convient à lui. Naam. Et la main d'Allah subhanahu wa ta'ala est la plus belle. Et la plus belle, et lui convient. Et bien sûr, personne ne l'a vu, mais il en a une, yani, qui convient, comme j'ai dit, qui lui convient à sa beauté. Et le deuxième groupe, ça c'est le premier groupe, les annulateurs qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala en a pas. Car s'il dit, si on dit qu'il en a, ça veut dire qu'on l'a fait ressembler. Le deuxième groupe, les mushabbiha. Ça s'appelle aussi les mumathila, c'est-à-dire les anthropomorphistes. Ceux-là, c'est tout à fait le contraire du premier groupe. Ils ont confirmé les noms et les attributs d'Allah tout en le faisant ressembler à sa créature, prétendant que cela n'est autre que le résultat de la signification des textes coraniques et prophétiques. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ses serviteurs en des termes qu'ils comprennent. Bien sûr, et cette prétention est fausse. Pour diverses raisons, en voici deux. La première, faire ressembler Allah ta'ala à ses créatures est un concept absolument faux, infirmé par la raison et les textes religieux. Et il est impossible qu'un faux concept résulte du sens des textes coraniques et prophétiques. Deuxièmement, certes, Allah Azza wa Jal s'est adressé à ses serviteurs en des termes qu'ils comprennent, et selon leur sens propre et non figuré. Mais pour les noms et les attributs d'Allah, la connaissance du comment de ces termes appartient à Allah, lui seul. Naam, comment? Ça, c'est pas notre ressort. Ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, lorsque Allah ta'ala affirme qu'il est audient, c'est-à-dire il entend, cela revient à confirmer qu'il possède l'audition. Et certes, l'audition est bien connue dans son sens propre. On sait que ça veut dire Allah ta'ala a l'audition et l'entend. C'est le fait de percevoir les sons. Cependant, le comment et la manière de son audition nous sont inconnus. Car même au sein des créatures, le comment de l'audition est différent. Et cette différence est d'autant plus prononcée et évidente entre le créateur et ses créatures. Allah Ta'ala a dit, surat Taha, verset 5, il a dit, le tout miséricordieux, Ar-Rahman, c'est Istawa au-dessus de son trône. Ar-Rahman wa ala l'arsh Istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Istawa. En employant un terme dont le sens nous est connu, Allah nous a informé qu'il est Istawa. Il s'est établi, il s'est élevé donc au-dessus de son trône. L'arsh. Et cette Istiwa, cette élévation, au sens propre du terme, nous est bien connue. On comprend que ça veut dire istawa. C'est l'élevation, le fait d'être au-dessus. Par contre, le comment de son élévation au-dessus de son trône nous est inconnu. Non, en effet, le comment de l'istiwa est bien distinct entre les créatures. Alors, que dire de l'istiwa du créateur par rapport à ces créatures? Est-ce que l'installation, est-ce que l'élévation au-dessus d'une chaise stable est semblable à celle au-dessus d'une monture farouche? D'ailleurs, nous, quand on dit par exemple que telle personne, Nam, s'est élevée au-dessus de sa monture, par exemple. Nam. X est monté sur sa monture et s'est élevé au-dessus d'elle. Nam. Ça veut dire que si jamais il n'y avait pas la monture, ou là on lui enlève la monture, ou là on lui enlève la chaise sur laquelle il s'est élevé, la chaise, et il va tomber. Est-ce que Allah Ta'ala c'est la même chose quand il s'élève au-dessus du trône? Si on enlève le trône, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala va tomber. Ensuite, qui a dit que il y avait un toucher? Qui a dit que il y avait un toucher entre Allah subhanahu wa ta'ala et son trône? Comme il y a un toucher entre nous et la monture, ou nous et la chaise. Qui a dit qu'il y avait ça? C'est pour ça que nous on dit seulement il s'est élevé au-dessus du trône. On n'a pas dit qu'il y avait le toucher. On a dit il s'est élevé. D'ailleurs, on dit que le ciel est au-dessus de ma tête. Est-ce que le ciel touche à ma tête? Et quand je dis le plafond est au-dessus de moi. Le plafond est au-dessus de moi. Ou là au-dessus de ma tête. Est-ce que le plafond est posé sur ma tête? Donc il n'y a pas de toucher. Même chez nous, il y a des élévations sans toucher. Qu'en est-il d'Allah subhanahu azzawajal? Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui peut-être n'ont pas entendu sur le pasteur, celui qui veut plus de détails en cela, qu'il revienne à quoi? Qu'il revienne, inshallah ta'ala, au cours qu'on a fait sur l'aqida al-wasitiyya, il y a les premiers cours. Naam, les premiers cours, il y a tous les détails sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu azzawajal. Et maintenant, il y a même une room. Naam, une room, je crois, si je ne me trompe pas, qui s'appelle École Salafia. C'est École Salafia Ibn Baz Ibn Uthaymeen, Allahu ta'ala alam, naam, qui diffuse maintenant les cassettes, les cours de la Aqida. Naam, naam, et le frère Riyad, barakallahu fi, est en train de leur enlever, yani, le mauvais son. Naam, le bruit qu'il y a dans ces cassettes. Le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons décrit, quels sont les avantages qu'il procure aux croyants? Au moins trois. Premièrement, la réalisation de l'unicité d'Allah Azzawajal, de telle sorte que le croyant n'espère qu'en Allah, n'ait peur que d'Allah et ne dévoue son adoration qu'à lui Azzawajal. Deuxièmement, l'amour parfait envers Allah subhanahu wa ta'ala et son nidification, résultant de la connaissance de ses bons noms et ses caractères sublimes. Je vous ai dit une fois ou plusieurs fois, plus on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, plus yani on va l'aimer plus et plus on va le vénérer. Pour certains, Allah subhanahu wa ta'ala yani n'a pas cette grande immensification, cette grande valeur, ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas bien. Comment on va le connaître? Pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, il faut connaître d'abord ses noms et ses attributs. Non, et bien sûr aussi ses actes, ce qu'il fait. Mais surtout ses noms et quoi? Et ses attributs. Non. Et troisièmement, l'accomplissement de la ça donne l'accomplissement de l'adoration envers Allah en pratiquant ses ordres et en évitant ses interdits. Non. Quand je sais par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala est le voyant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il voit tout. Donc, j'aurais honte de faire certaines choses. Pourquoi? Sachant que il me voit là où je suis. Mais si je sais pas cela, je crois que il me voit seulement, par exemple, yani le jour, il ne me voit pas la nuit. Ou là, il me voit dans la rue, il ne me voit pas quand je suis dans la maison. Si j'ai ça dans le cœur, ça veut dire que quand je suis dans la maison ou là, donc je fais des choses. Non. Maintenant, inchallah ta'ala, on va passer à, yani, au deuxième pilier, la foi aux anges, la foi en ces anges. Non. Donc on va commencer par une chose, inshallah ta'ala. Les anges sont des créatures dévoué à l'adoration d'Allah Azzawajal. Appartenant à un monde invisible, il ne possède aucune spécificité relative à la seigneurie et à la divinité, qui ne sont propres qu'Allah Ta'ala, le Très-Puissant. Donc, les anges, ils appartiennent à qui? Ils appartiennent à un monde invisible. On ne les voit pas, sauf bien sûr, lorsqu'Allah Ta'ala leur donne le don qu'ils se fassent voir. Naam. Et ils n'ont pas de spécificité relative à la seigneurie. C'est-à-dire qu'ils ne commandent pas et ils ne dirigent pas ce monde. Naam. S'ils font quelque chose, c'est par l'ordre d'Allah Azzawajal et sa permission et son aide. Mais eux-mêmes, ils ne font pas des choses d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Naam. Et la même chose, ils n'ont pas de choses spécifiques à la divinité. C'est-à-dire que nous, yani, on adore Allah subhanahu wa ta'ala. On n'adore pas un ange, on ne fait pas des doigts à un ange, naam. On ne fait pas de tawakkul à un ange, et comme ça. Naam. Créé de lumière. Il y a un hadith authentique qui dit que Allah ta'ala a créé les anges de la lumière. Créé de lumière et doté d'une faculté de soumission totale aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils les accomplissent grâce à l'importante capacité qui leur a été octroyée. Allah Ta'ala dit, Sourate Al-Anbiya, verset 19-20, Sourate Al-Anbiya, verset 19-20, il a dit, ceux, c'est-à-dire les anges, il parle des anges, il a dit, ceux qui sont auprès de lui, ne sont point trop grands pour l'adorer. Ne sont pas trop grands pour l'adorer. Naam. Et ne s'en lassent pas. Ils exaltent sa gloire jour et nuit et ne s'interrompent point. Subhanallah al-Azim. Donc les anges qui sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se considèrent point trop grands pour l'adorer. Et ne s'en lassent pas. Ils exaltent sa gloire jour et nuit et ne s'interrompent point. Naam. Il a dit aussi, en parlant des anges, il a dit, ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et font strictement ce qu'on leur ordonne. C'est-à-dire, sourate Tahrim, verset numéro 6. Naam. Ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et font strictement ce qu'on leur ordonne. Naam. Le nombre des anges est immense et seul Allah Ta'ala peut les dénombrer. Le nombre des anges est immense et seul Allah Azzawajal peut les dénombrer. D'ailleurs, il a dit dans Sourate Al-Mudaththir, il a dit, verset 31, nul ne connaît le nombre des soldats de ton Seigneur à part lui. Nul ne connaît le nombre des soldats de ton Seigneur à part lui. Et les imams Bukhari Muslim rapportent d'après Anas, radiallahu ta'ala anhu, au sujet de l'histoire de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit entre autres? La maison habitée dans le ciel, le Bayt al-Ma'mour, vous savez, il y a une maison qui se trouve juste au-dessus de la Qibla, mais dans le 7e ciel. Il a dit, cette maison qui s'appelle Bayt al-Ma'mour, parce qu'elle est remplie, a été présentée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette maison reçoit chaque jour 70 000 anges qui y prient, ils rentrent pour prier, puis la quittent sans jamais y revenir. Donc il y a 70 000 anges qui rentrent chaque jour dans cette maison habitée, le Bayt al-Ma'mour. Ensuite, jamais ils ne reviennent. C'est-à-dire, ensuite il y a 70 000 autres, et comme ça. Donc imaginez si quelqu'un voulait faire un calcul. Est-ce qu'il pourrait y arriver? Est-ce qu'on peut faire un calcul? À raison de 70 000 anges qui rentrent chaque jour dans Bayt al-Ma'mour. Et on compte 70 000, hein, combien ça donne par semaine? 7 fois 70 000. Combien ça donne par mois? Hein, 30 fois 70 000. Combien ça donne par an? Combien ça donne par milliards d'années, combien il y a de milliards d'années que Allah Ta'ala a créé cette maison, et combien donc ça donne d'anges, subhanallah. C'est pour ça qu'il a dit, nul ne connaît le nombre des soldats de ton Seigneur. Subhanallah, l'adim, nam. Ensuite, il a dit, la foi aux anges comprend quatre points. La foi en leur existence, qu'il existe. La foi en ceux dont nous connaissons les noms, comme Djibril, Gabriel, et en ceux dont les noms nous sont inconnus. On doit croire en ceux, nam, dont les noms sont connus, et ceux dont les noms aussi ne sont pas connus. Troisièmement, la foi aux caractéristiques de ceux qui nous ont été décrits, tels que Djibril. Naam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il a vu Djibril, alayhi salam, sous sa forme originelle dans laquelle Allah ta'ala l'a créé. Il l'a vu avec 600 ailes qui couvrent l'horizon. Donc, les anges, qu'est-ce qu'ils ont? Yani, dans leur forme originelle, comme ils ont été créés, ils ont des anges. Ils ont des anges. Entre autres, Djibril, combien il a d'anges? Afoun, combien il a d'ailes? Les anges ont des ailes. Djibril, combien il a d'ailes? Il a 600. 600 ailes. Et l'ange peut se transformer par ordre divin sous la forme d'un homme. Comme cela s'est déroulé lorsque Allah Ta'ala a envoyé Djibril, c'est-à-dire Gabriel, il l'a envoyé à Maryam. Naam, à Maryam. Et celui-ci s'est présenté à elle sous la forme d'un homme parfait. Allah Ta'ala a dit, surat 19, verset 17. Surat 19, verset 17. Allah Ta'ala a dit, nous lui envoyâmes notre esprit, Djibril, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Nous lui envoyâmes Djibril qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Et aussi, lorsqu'il se présenta au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en se frayant un chemin parmi les assistants. Puis, il s'agenouilla face au prophète. En effet, il se présenta sous la forme d'un homme habillé de blanc, aux cheveux tout noirs, et rien n'indiquait qu'il venait d'un voyage. Naam. Et personne parmi les compagnons ne le connaissait. Il interrogea le prophète alayhi salam au sujet de l'islam, ensuite au sujet de l'iman, la foi, ensuite au sujet de l'ihsan, la vertu, ensuite au sujet de l'heure ultime et ses signes précurseurs. Après réponse du prophète sallallahu alayhi salam, il partit. Ensuite le prophète alayhi salam a dit, cet homme était Djibril, il est venu vous enseigner votre religion. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Il est venu vous enseigner votre religion. Donc vous voyez que il est venu sous quoi? Sous forme humaine. C'est Allah Ta'ala qui lui donne quoi? Qui lui donne cette yani, faculté, cette capacité pour le faire. Sinon, il ne peut pas. Naam. Et remarquez ici, Djibril, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé quatre questions. Ça, c'est quoi la foi? C'est quoi l'islam? C'est quoi la foi? C'est quoi la vertu? Et lui a dit, parle-moi de quoi? Parle-moi de l'heure et de ses signes précurseurs, de la fin du monde. Et malgré cela, qu'a dit le prophète? Il a dit, c'est Djibril, il est venu vous enseigner votre religion. Est-ce que Djibril nous a enseigné ici quelque chose? Il a posé seulement des questions. Mais ça rentre dans l'enseignement de la religion. C'est pour ça que les savants ont dit, celui qui pose une bonne question dans le din, ça veut dire que il a enseigné la religion. Car quand tu poses une bonne question dans le din, qu'est-ce que tu as fait? Donc, tu as poussé celui que auquel tu as posé la question, tu l'as poussé à ce qu'il réponde et à ce qu'il, par conséquent, à ce qu'il apprenne les gens. Donc, tu as été la cause de l'enseignement. Donc, regardez ceux qui posent les bonnes questions, comment ils font partie de ceux qui enseignent la religion. Naam. Et nous constatons donc, Cheikh Dirahimullah, nous constatons donc que les anges peuvent être envoyés par Allah Ta'ala sous une forme humaine, comme cela s'est déroulé aussi avec Ibrahim et avec Lot. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Sourate Hud, verset 69, il a dit, et nos émissaires, nos anges, sont certes venus à Ibrahim avec la bonne nouvelle en disant Salam, c'est-à-dire paix. Il a dit Salam, et il ne tarda pas à porter un veau rôti. Sourate Hud, verset 69. Il a dit aussi, dans Sourate Dhariyat 24-25, il a dit: t'est-il parvenu le récit des visiteurs honorables d'Ibrahim? Qui c'est les visiteurs honorables? Ce sont les anges. Quand ils entrèrent chez lui et ils dirent salam, il leur dit salam, visiteur inconnu. Et aussi Sourate Hud, verset 77, lorsque Allah Ta'ala dit: et quand nos émissaires vinrent à Lot, ils furent chagrinés par eux et on éprouva une grande gêne. Pourquoi? Car ils vinrent vers lui, ils vinrent chez lui sous forme humaine. Naam. Et bien sûr, il ne les a même pas reconnus. Il a cru que c'était des hommes, des êtres humains. Il les a même invités et il leur a même préparé à manger. Mais quand il leur approcha le veau rôti, il a remarqué que quoi? Ils ne voulaient pas manger. Naam. Alors il a vite compris que ce sont des anges, car des anges ne mangent pas. Sinon toute personne qui vient comme invité et vient d'un voyage et c'est le moment de manger et de surplus tu vas lui poser comme manger un veau rôti, elle va pas le manger. Alors ça c'est vraiment étonnant. Donc il a compris que c'était des anges. Naam. Et quatrièmement, il faut croire en quoi? Il faut croire en leur fonction qu'ils accomplissent selon les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, les anges entreprennent différentes fonctions, comme la glorification et l'adoration d'Allah azza wa jal jour et nuit, sans aucun relâchement ni lassitude. Allah Ta'ala a dit, Sourate Fussilat, c'est-à-dire Sourate 41, verset 38, il a dit, qui sont auprès de ton Seigneur, c'est-à-dire les anges, ceux qui sont auprès de ton Seigneur, nuit et jour, sans jamais se lasser. Naam, il le glorifie. Jour et nuit, sans jamais se lasser. Il a dit aussi, Sourate Al-Anbiya, verset 20, il a dit, ils exaltent sa gloire nuit et jour, et ne s'interrompent point. De plus, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le ciel menace de se craquer sous le poids des anges. Car il n'y a pas un espace de quatre doigts sans que l'un des anges ne l'occupe, étant debout, incliné ou prosterné pour Allah Ta'ala le Très-Haut. Hadith sahih. Je répète, le ciel menace de craquer sous le poids des anges. Ils ont même entendu des fois le prophète Hassan, une fois, entendu un son. Même les sahabas sont étonnés, ils ont dit c'est quoi ça? Il a dit c'est le craquement du ciel sous le poids des anges. Donc le ciel lui-même menace de craquer sous leur poids. Tellement, Naam, il n'y a pas un espace de quatre doigts sans que l'un des anges ne l'occupe. Soit en étant debout pour faire la prière, soit en étant incliné, soit en étant prosterné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il arrive que certains des anges aient des fonctions bien précises, comme par exemple Jibril, qu'ils appellent Gabriel. Le digne de confiance, Allah Ta'ala l'a appelé l'Amin. Responsable de la révélation, c'est lui l'ambassadeur entre Allah Ta'ala et qui? Entre Allah Ta'ala et ses messagers. Naam, c'est lui qui leur fait descendre la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala l'envoie au prophète et au messager, Mikaël, chargé de la tombée de la pluie et de la poussée des plantes, comme l'a rapporté Ibn Kathir dans son ouvrage Bidayah Nihaya, tome 1, page 50. Donc Mikaël, qu'est-ce qu'il fait? Chargé de la tombée de la pluie et de la poussée des plantes. La poussée des plantes. Ensuite, il y a Israfil, chargé de souffler dans la trompe pour l'annonce du jugement dernier, du jour du jugement dernier et de la résurrection. Le prophète Aslam a mentionné cet ange quand il se levait la nuit pour prier. Il disait, ô Allah, Seigneur de Jibril, Mikaël et Israfil, Naam, Créateur des cieux et de la terre, qui connais les mystères cachés et le monde apparent, c'est toi qui tranches les différents qui opposent tes créatures. Montre-moi par ta grâce la vérité dans ce qui les oppose. Toi seul es capable de montrer droit chemin à qui tu veux, rapporté par Muslim. Il y a aussi qui? Il y a l'ange de la mort, chargé de saisir les âmes au moment de la mort. Il est rapporté dans certains récits israélites le nom d'Azraël. Certains disent Azraël au sujet de l'ange de la mort. Mais ce nom, c'est-à-dire Azraël, n'est pas mentionné ni dans le Coran ni dans la Sunna authentique. C'est pour ça que ce n'est pas vrai de dire Azraël. Mais on doit dire l'ange de la mort. S'il s'appelait Azraël, comme disent beaucoup de gens, pourquoi Allah Ta'ala aurait-il omis de le citer dans le Coran? Pourquoi il a cité Mikaël, il a cité Israfil, il a cité Djibril? Pourquoi il n'a pas cité Azraël? Il va dire l'ange de la mort. Non. Allah Ta'ala dit dans le Coran, surat 32, surat Sijda, verset 11, il a dit, dis-leur, l'ange de la mort recueillera vos âmes, il en est chargé. Dis-leur, l'ange de la mort vous fera mourir. Il recueillera vos âmes, il en est chargé. Non. Il y a aussi un ange qui s'appelle Malik. Il s'appelle Malik. Cet ange, c'est qui? C'est le gardien de l'enfer. C'est le gardien de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 43, verset 77. Il a dit, et ils crieront, c'est-à-dire les gens de l'enfer, et ils crieront, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Il dira, en vérité, vous y êtes pour demeurer éternellement. وَقَالُوا يَا مَالِكْ لِيَقْدِي عَلَيْنَا رَبُّكْ نَعَمْ لِيَقْدِي عَلَيْنَا رَبُّكْ. Donc, subhanallah al-azim, remarquez, les gens de l'enfer, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Ils ne demandent pas qu'il yani, que, yani, il arrête de les châtier. Ou alors qu'il, encore moins, yani, qu'il les fasse rentrer au paradis. Ils demandent seulement l'achèvement. Pourquoi? Car l'achèvement, c'est la fin du supplice. Mais Allah Ta'ala, yani, Malik, qu'est-ce qu'il va leur répondre? Vous y êtes, yani, vous êtes ici. Vous êtes ici spécialement pour y demeurer. Comme Allah Ta'ala dit, la yamutu fiha wa la yahya. Ni il ne mourra, ni il ne sera vivant. Ni il ne mourra pour se reposer du châtiment. Ni il sera vivant pour yani, la vraie vie, comme les gens du paradis. Subhanallah. Et il y a aussi quelqu'un qui s'appelle, un ange qui s'appelle Redouan. Redouan. Naam. Le gardien du paradis. Le gardien du paradis. Comme cela a été rapporté par Ibn Kathir dans le Bidayah ou Nihaya. Tome 1, page 53. Il y a aussi Munkar et Nakir. Très connu ces deux-là. Ce sont les deux anges responsables de questionner le mort après qu'il soit déposé dans sa tombe. Naam. Munkar ou Nakir. Il l'interroge au sujet de son Seigneur, sa religion et son prophète. Comme cela a été authentifié dans la Sunna Sahiha. Et rapporté aussi dans le Tafsir Ibn Kathir. Tome 2, page 514. Non. Il y a aussi les anges chargés de sauvegarder les œuvres des enfants d'Adam. Les anges chargés de sauvegarder nos œuvres, nos actions. La Ta'ala a dit dans Sourate Qaf, la Sourate numéro 50, dans le verset 17 et 18. La Ta'ala a dit, quand les deux recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent. Non, quand les deux recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent. Ils ne prononcent pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Ma yalfidu min qawlin illa ladihi raqibun atid. Non. Ma yalfidu min qawlin illa ladihi raqibun atid. En effet, Allah Ta'ala a affecté deux recueillants à chaque individu. L'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Nous, on ne les voit pas, bien sûr. Mais ils sont avec nous partout. Là où tu vas, ils sont. Naam, ils y sont. L'un toujours à droite, l'autre toujours à gauche. Naam. Quelqu'un, celui de droite, il écrit des bonnes actions. Celui de gauche, il écrit des mauvaises actions. Et il te donne 6 heures. Après une mauvaise action, il donne à la personne 6 heures pour voir si elle va se repentir. Il n'écrit pas. Si elle ne se repentit pas, il écrit. Il y a les anges aussi qui sont chargés de l'embryon. L'embryon dans l'utérus de la mère. Dans l'utérus de la mère. Le prophète A.S.A.M. a dit, la conception de chacun d'entre vous dans le ventre de sa mère s'accomplit en 40 jours. D'abord sous la forme d'une semence, puis sous celle de plasma sanguin pour une même période, 40 jours, puis sous celle d'un morceau de chair pour une période semblable, 40 jours. Enfin, un ange lui est envoyé. Il y insuffle l'esprit vital et reçoit l'ordre d'inscrire 4 décisions le concernant, c'est-à-dire le bébé, à savoir ce qui lui est imparti, ce qui lui est imparti comme bien et nourriture. Ensuite, son délit de vie. Ensuite, ses actes. Et enfin, sa condition, heureuse ou bien malheureuse. Par Allah, en dehors duquel il n'est pas divinité, l'un de vous accomplit des actes semblables à ceux des gens du paradis, au point qu'il ne reste plus entre lui et le paradis qu'une coudée. C'est alors qu'il est devancé par le destin inscrit, est amené à commettre des actes dignes des gens de l'enfer, le conduisant ainsi au feu. Par contre, l'un de vous accomplit des actes semblables à ceux des gens de l'enfer, au point qu'il ne reste plus qu'une coudée, le séparant de l'enfer, c'est alors que le destin inscrit le dévance et il se trouve à accomplir des actes dignes des gens du paradis qui l'y font rentrer au paradis, rapporté par Bukhari et Muslim. Naam. Et pour terminer, il a dit, la connaissance, yani, que procure la foi aux anges? Il a dit, elle procure de nombreux avantages aux croyants. Premièrement, la connaissance de l'immensité d'Allah, de sa puissance et de son royaume. En effet, l'immensité des anges témoigne de l'immensité de leur créateur, qui n'est autre qu'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala a permis au prophète alayhi sallam de nous décrire un des anges chargés de porter son trône. Un des anges chargés de porter son trône. À cette occasion, le prophète alayhi sallam nous informa que la distance qui sépare le lobe de l'oreille de l'ange de son épaule, regardez-nous combien qu'il y a entre notre oreille et l'épaule. Entre notre oreille et l'épaule, il y a même pas un nampon, il y a quelques centimètres entre le lobe de notre oreille, là où il y a comment s'appelle les trucs qu'on met sur les oreilles, le truc que met la femme dans son oreille, c'est quoi, comment ça s'appelle, les boucles d'oreilles. Regardez combien qu'il y a la distance entre l'endroit de l'oreille où la femme met la boucle d'oreille et son épaule, juste quelques centimètres. Mais le prophète A.S. nous a décrit que un des anges qui porte le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a entre l'aube de son oreille et son épaule, il y a une distance qui équivaudrait à 700 années parcourues à dos de cheval. Regardez, si je vais monter sur un cheval et que mon cheval courait au maximum, et qu'il pourrait, que Allah Ta'ala lui donnerait par exemple la capacité de pouvoir courir pendant 700 années sans s'arrêter. Combien qu'il va traverser ce cheval, combien qu'il va traverser de kilomètres pendant 700 ans. Vous savez, le cheval peut courir jusqu'à 70 et jusqu'à 80-90 km à l'heure. Imaginez, il va faire toutes les heures, disons qu'il va faire 80 km/h. Combien qu'il va traverser pendant 700 ans? Cette distance sera sûrement des milliards de kilomètres. Donc, regardez combien qu'il y a entre l'oreille de l'ange et son épaule. Des milliards et des milliards de kilomètres. C'est seulement entre quoi? Seulement entre son oreille et son épaule. Alors, qu'en est-il entre entre subhanallah l'adim, entre sa tête, et ses pieds. Combien qu'il doit y avoir de kilomètres. D'ailleurs, il y a un autre hadith que le cheikh ici n'a pas cité, que le prophète islam, elle nous a décrit aussi, en décrivant un ange qui tient aussi yani le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que ses pieds se trouvent dans la septième terre. Vous savez, il y a sept terres, comme il y a sept cieux. Il a dit dans le plus bas de la septième terre, là-bas se trouvent ses pieds. Et il a dit son cou se trouve sous le trône, mais il a dit, yani, il n'est pas comme ça droit, debout son cou. Tellement, yani, tellement il est grand et tellement il n'y a plus de place. Il a dit, il a le cou comme ça tordu sous le arche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, ça nous apprend quoi, le fait de croire aux anges? Le remerciement à Allah Azza wa Jal pour son attention particulière portée à ces êtres humains, puisqu'il a chargé des anges de les protéger, d'enregistrer leurs œuvres et de s'occuper d'autres bienfaits à leur égard. Troisièmement, l'amour envers les anges pour les fonctions qu'ils accomplissent, telles que l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, un groupe d'égarés a nié le fait que les anges aient des corps, prétendant ainsi qu'ils étaient des forces intérieures bienfaisantes se trouvant dans les créatures. Ceux qui disent que les anges, même s'ils ont été créés de lumière, n'ont pas de corps, Cheikh Rahmoud dit celui-là c'est un égaré. Cette prétention n'est qu'un démenti du Coran, de la Sunna et du consensus infaillible de la communauté musulmane. Naam. Ensuite, il a cité quelques preuves. En cela, il a dit, Allah Ta'ala a dit, « Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers, dotés de deux, trois ou quatre ailes. » Donc, Allah Subhanahu wa Ta'ala a cité que les messagers, que les anges avaient des ailes. Par conséquent, donc, des corps. Et il a dit aussi, « Si tu voyais, lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécréants, ils les frappaient sur le visage et leur derrière, en disant, goûtez au châtiment du feu. » Donc, Allah Ta'ala a cité que quoi? A cité que les anges, quand ils vont recueillir certaines âmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils frappent certains gens. Ils frappent les mécréants. Non, ils les frappent avec quoi? Sur le visage et sur leur derrière. Est-ce que quelqu'un qui est seulement une lumière, est-ce qu'il peut te frapper? Non? Il faut qu'il soit un corps pour pouvoir te frapper. Il a dit dans un autre verset, « Si tu voyais les injustes, lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et que les anges leur tendront leurs mains, c'est-à-dire les frapperont, en disant, laissez sortir vos âmes. » Naam. Ensuite, il a cité l'autre verset, « Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront, qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront, la vérité. C'est lui le sublime, le grand. » Donc, ils diront, qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront, la vérité. Donc, pour poser des questions et répondre, il faut que, quoi? Il faut que ils aient des corps, naam. Et Allah Ta'ala dit, de chaque porte, c'est-à-dire, quand les gens seront au paradis, Allah Ta'ala dit, de chaque porte, les anges entreront auprès d'eux en disant, salam alaykum, salam sur vous. Pour ce que vous avez enduré, comme est bonne votre demeure finale. Naam. De chaque porte, les anges entreront auprès d'eux en disant salam alaykum pour ce que vous avez enduré. Salam alaykum bima sabartum. Naam. Comme est bonne votre demeure finale. Ni'ma uqbaddar. Donc vous remarquez que s'ils rentrent, c'est qu'ils auront des corps, c'est qu'ils ont des corps. Donc vous voyez que le jour de la résurrection, quand les gens seront au paradis, qu'est-ce qui va se passer? Les anges vont rentrer de toutes les portes. Et à chaque fois, ils vont te dire quoi? Voilà la récompense, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce paradis. Donc vous avez remarqué ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, naam, pour ce que vous avez mérité ça, pour c'est pas pour vos prières. Bien sûr, la prière a un rôle. Mais ici, ils vont se suffire à dire pour ce que vous avez enduré. Pour voir que, pour savoir aussi que vraiment ce qui fait rentrer au paradis, c'est quoi? C'est vraiment la patience. La patience. Naam. Celui-là, il a souffert, en étant malade. Celui-là, il a souffert. De froid, celui-là, il a souffert de pauvreté, celui-là, il a souffert avec ses ennemis, celui-là, il a été tué, celui-là, il a souffert avec son cancer, celui-là, il a souffert avec les gens de la bid'a, celui-là, il a souffert en prison, et comme ça, pour avoir patienté, pour avoir patienté, Allah subhanahu wa ta'ala, les gâtera avec ce qu'on a cité ici. Et dans l'authentique de Bukhari, d'après Bukhari, le prophète sallam a dit, lorsqu'Allah Ta'ala aime quelqu'un, il dit à Jibril, Allah le Très-Haut aime un tel, aime-le donc. Alors Jibril l'aime et crie aux habitants du ciel, Allah aime un tel, aimez-le donc. Ceux-ci l'aiment alors, puis l'amour pour cette personne sera mis dans le cœur des habitants de la terre. Porté par Yannick Bukhari. Le prophète a dit, alayhi salam, chaque vendredi, les anges se postent devant toutes les portes de la mosquée. Ils enregistrent les fidèles au fur et à mesure qu'ils y rentrent. Une fois que l'imam de la mosquée s'assied sur sa chaire, il plie le registre et vient écouter le sermon de l'imam, rapporté par le Bukhari. Donc vous voyez que, yani, ce ne sont pas seulement, yani, vous voyez qu'ils ont des corps. Certes, toutes ces preuves irréfutables confirment bien que les anges possèdent des corps et ne sont pas des forces abstraites, comme l'ont prétendu certains égarés, défiant ainsi l'unanimité de la nation musulmane. Le prochain cours, inshallah ta'ala, sera la foi au livre d'Allah subhanahu wa azzawajal. On arrête ici, on se rencontre, inshallah ta'ala, dans un quart d'heure à peu près. Subhanakillahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله عز وجل sans perdre de temps بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل إن شاء الله تعالى. Quelles sont vos premières questions? تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes clairs, Inch'Allah. نعم, cher. Inch'Allah, je garde le micro sur le InSpeak, cher, pour que ce soit plus pratique. Inch'Allah, comme ça vous prenez le micro juste sur le Paltalk. Et Inch'Allah, j'alternerai pour pas chaque fois reprendre les deux micros. Donc on va commencer par les questions du Paltalk. Donc question de Ikhlas, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce conseillé de se faire débaptiser ou pas? Même si Allah est témoin, est-ce bien de demander l'apostasie catholique sur les papiers? En écrivant à l'église, en sachant qu'on s'est fait baptiser à 12 ans par choix. Si l'église voit qu'on a abandonné la religion catholique, en leur disant pourquoi, est-ce bien ou inutile? Barakallahu fikoum, cheikh. Question de Ibn al-Qayyim al-Jawziya. Salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. Hayakoum Allah. Voilà, un talib al-ilm a dit, les compagnons ont divergé dans la Aqida, alors que Cheikh Hamad Al-Ansari, rahimahullah, a dit, les compagnons n'ont jamais divergé dans la Aqida, même la divergence, mais la divergence dans la Aqida a eu lieu après eux. Ce talib al-ilm n'est pas revenu sur ses paroles après plusieurs tentatives d'autres toulab al-ilm. Mais ce frère n'est pas revenu. Quel est le jugement de ce frère? Est-il sorti du minhaj? Devons-nous écouter ses cours? Barakallahu fikoum, Cheikh. Qu'Allah Azza wa Jal vous guérisse. Troisième question. Troisième question. Donc là, c'est une question à titre exceptionnel, car la réponse, elle doit être donnée pour lundi. Donc le cheikh a accordé cette réponse. C'est pour ça qu'il ne faut pas penser que c'est du favoritisme. Jazakumullah khairan. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On propose à mon mari un emploi de gardien d'immeuble. Ce travail consiste, entre autres, à accueillir les locataires dans une loge, parenthèse un bureau, pour enregistrer leurs réclamations, sachant que cette loge a une porte ouverte sur le hall d'entrée de l'immeuble, entre parenthèses, où passent les locataires. Et sachant qu'une femme locataire peut venir voir mon mari et que mon mari peut aussi être éventuellement amené à intervenir dans l'appartement d'une femme seule, par exemple pour un état des lieux. Se retrouverait-il seul à seul avec cette femme si la porte est ouverte? Et mon mari peut-il accepter ce travail? Entre parenthèses, sachant que ça lui permettrait de payer ses dettes. Tfadal al-Khir al-Ghalaba pour la question du InSpeak.
Salam alaikum. Est-ce qu'il y a du son, inchallah? Le son, il est clair? Inch'Allah, je voulais te reprendre, alhamdoulilah, tu vois, la question par rapport au Talib Ilm qui a fait des erreurs ou quoi que ce soit. Yani, c'est rien que des frères qui cherchent la fitna, il faut pas poser ce genre de questions. Ces frères-là, ils savent pas ce qu'ils disent. C'est des gens, ils ont appris que l'arabe, et ils viennent parler de Talib Ilm qu'ils ont été auprès des savants. Yani, je vois de qui il s'agit. À fond par rapport à ça. Donc, je voulais vous dire. Par rapport à cette question qu'elle n'est pas, elle n'est pas recevable, il n'y a que ça maintenant. Il n'y a que des gens qui vont apprendre l'arabe et qui viennent parler de Talab Ilm qu'ils ont appris de la bouche des savants. Donc on passe à la question, la première question de InSpeak, c'est Zakaria 70, 72. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Je demande à Allah qu'il vous récompense dans cette vie et dans l'au-delà. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu a déjà vu Allah Azawajal. Barakallahu fikum. Wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deuxième question. J'ai pas reçu l'autre question, donc je passe directement à la question de Ourt 19. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous récompense. Vous accorde le Firdaus pour tous les bienfaits que vous nous apportez. Si on a des aliments coincés dans les dents et qu'on fait les ablutions, est-ce que les ablutions restent valables malgré que l'eau n'a pas touché les endroits où il y a de la nourriture ou autre, comme des brins de siwek? Ou est-ce que la bouche doit être parfaitement nettoyée avant de commencer les ablutions? Quelle est la règle de base? Barakallahu fikoum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muslim, puisqu'on a, comment qu'on dit? Non, attends, on cherche le mot. Puisque la deuxième question, on va pas répondre à la deuxième question. Donc tu choisis une autre question à sa place, c'est dit Wahda. Deuxièmement, parle-moi du cas de la sœur qui est Umm Ikhlas, ou la Ikhlas, qui parlait de baptiser, débaptiser, etc. Comment, c'est quoi exactement ça? Tfadla.
Naam, cher. Donc, Anna, j'ai jamais entendu débaptiser. Je ne sais pas si c'est une chose qui se fait. Wallahu alam, moi, j'ai jamais entendu. Parce que logiquement, si elle embrasse notre religion, automatiquement, elle est débaptisée de. Elle sort de sa première religion. Donc, Wallahu alam, je connais pas ce type. En fait, elle parle de l'Église. Est-ce que c'est utile que l'Église sache qu'elle a changé de religion? Étant donné donc qu'elle est partie à l'église il y a 12 ans ou à l'âge de 12 ans et qu'elle s'est fait baptiser, elle demande que si c'est utile que l'église soit au courant de cela. Donc la seconde question. Donc, question de Safiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikoum pour le temps que vous nous accordez. Est-ce que les anges habiteront avec les habitants du paradis? Tfadal akhir ghuraba.
À fond, cher, je voulais justement apporter une précision par rapport à l'église, Inch'Allah. Justement, si la sœur demande ça, c'est parce qu'en fait, si elle demande donc l'excommunion, enfin, d'avoir un document écrit, comme quoi elle est plus chrétienne, elle va être effacée des registres enfin, à l'église, elle va être effacée, elle va être considérée comme mécréante pour les chrétiens. Et elle veut donner donc la bonne réponse en disant que l'islam c'est sa religion, et elle fera pas partie des chrétiens, de la liste des chrétiens, du nombre des chrétiens, dans les statistiques et dans tout. C'est pour ça qu'elle avait une preuve comme quoi elle a vraiment quitté le christianisme. On l'aura, monsieur. Tfadal, monsieur.
Maintenant j'ai bien compris, alhamdoulilah. Inch'Allah ta'ala, on commence donc par cette question.
je voudrais dire, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, que d'abord, le plus essentiel, qui a rapport avec son entrée au paradis et son éloignement de l'enfer, c'est quoi? C'est de renier cette chose dans le cœur. C'est de renier dans le cœur, qu'elle soit juive ou chrétienne ou le bouddhiste ou là, et qu'elle confirme dans son cœur que, alhamdoulilah, puisqu'elle est devenue maintenant musulmane, qu'elle confirme que seul l'islam c'est la vraie religion, et que toutes les autres religions qui étaient vraies en leur temps ont été abrogées avec la venue de l'islam. Maintenant, si en plus de cela, elle sait que elle peut se faire barrer des listes, etc., sans se faire de problème, quand je dis sans se faire de problème, c'est-à-dire sans se faire emprisonner, sans se faire expulser de la France, sans se faire je ne sais pas quoi, et qu'elle peut le faire, comme j'ai dit, sans qu'elle s'attire du mal, c'est bien aussi de le faire. C'est de s'effacer même des listes. Je m'efface de la liste, je ne veux pas qu'il reste quelque chose de mon coffre et de mon ancienne mécréance. Mais comme j'ai dit, si toutefois elle sait que ça ne va pas lui attirer des ennuis. Sinon, alhamdoulilah, avec ce qu'elle a dans le cœur maintenant, et ce qu'elle fait bien sûr, comme action et adoration vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une preuve qu'elle a quitté la mécréance. Alhamdoulilah. Pour la deuxième question, c'est-à-dire la personne, elle doit juste envoyer... Ah, une lettre, alhamdoulilah. Elle envoie une lettre, alhamdoulilah, c'est bien. Elle envoie une lettre où elle dit que, خلاص, je ne sais pas si c'est obligé qu'elle dise qu'elle est en islam ou pas, mais elle envoie une lettre pour se désavouer d'une religion abrogée. Quant à la personne qui a dit qu'elle voulait travailler, etc., et la porte, etc., la loge, etc., elle peut travailler, si elle est, comme elle dit, elle, dans le besoin pour payer les dettes, etc. Et si toutefois, elle sera appelée à rentrer dans une maison, elle doit laisser la porte ouverte. Elle doit laisser la porte ouverte. Quand je laisse la porte ouverte, je ne suis pas dans le tête-à-tête. Il faut laisser quoi? La porte ouverte quand c'est une situation comme celle-là. À propos du prophète, Seigneur. Seconde, c'était le prophète aussi. À propos de, est-ce que le prophète, alayhi sallam, a vu Allah subhanahu wa ta'ala lors de l'ascension, justement, ça a un peu rapport avec la question qu'on a effacée. Les salafs ont un peu divergé sur ce point. Et pourtant, il est dans la aqida. Comme Abdullah ibn Abbas qui disait que le prophète alayhi sallam a vu Allah subhanahu wa ta'ala avec un œil qui était au-dessus de sa tête. Certains ont dit de son cœur. Mais le vrai, le plus juste, c'est que le prophète alayhi sallam, pendant l'ascension, n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala. Mieux encore, il a dit, c'est une lumière, nour, anna'ara, comment puis-je le voir? Dans une autre version rapportée par Ibn Taymiyyah, il a dit nar, il y avait un feu, comment puis-je le voir? Et dans une autre version, nour, c'est-à-dire il y avait un voile de lumière entre moi et lui. Al-Muhim, l'avis que vous devez retenir, inshallah ta'ala, et c'est celui d'Al-Sunna al-Jama'a dans la Aqidah, que non seulement le prophète alayhi sallam ne l'a pas vu, mais encore qu'aucune créature, depuis que Allah ta'ala a créé le monde, aucune créature ne l'a vu. Il ne peut le voir jusqu'au jour de la résurrection. Pour les ablutions et la nourriture, la base c'est quoi? La base c'est que on doit, quand on fait le wudu, si on a le siwak par exemple, on utilise le siwak aussi pendant le wudu. Et ensuite, on ne va pas chercher est-ce qu'il y a des choses qui sont restées ou pas. Et si lorsqu'on termine la salat, on trouve qu'il y a des choses qui sont restées, les ablutions sont valides et on ne refait pas les ablutions, on ne refait pas la salat. Surtout, il ne faut pas rentrer dans ce ouswes, car il n'y a pas une personne qui n'a pas quelque chose entre ses dents. C'est impossible. Tu as toujours quelque chose entre ses dents, tes dents, aussi minime soit-elle. Et si tu vas chercher avec le microscope, tu vas trouver des millions de choses dans tes dents et entre tes dents. C'est pour ça que tant que tu ne ressens pas qu'il y a quelque chose qui te gêne, par exemple dans tes dents, naam, alhamdoulilah, tu as fait tes ablutions normalement, tu fais la prière normalement, inshallah ta'ala, pour ne pas rentrer dans les ouswas. Même après avoir trouvé une chose, on ne refait pas les ablutions, on ne refait pas la salat. Naam. Et pour les anges, est-ce qu'ils vont habiter avec les croyants au paradis? Naam. Ce qu'on sait, ce que le Coran nous a appris et notre dîn, c'est que les anges, naam, ou bien alors certains d'entre eux, seront avec les croyants, mais pas du matin au soir, c'est-à-dire il va habiter avec toi. Non. Le croyant sera avec son épouse et ses enfants. Et elle aussi, elle sera avec son mari et ses enfants, si elle a des enfants. Naam. L'ange ne va pas te gêner. Mais l'ange, quand on a besoin de lui, il vient. Naam, il vient pour te saluer, par exemple, pour te dire, yani, ahlan bikum, pour te dire, marhaban bik, pour te montrer des choses que tu connais pas, des endroits que tu connais pas, des choses comment, par exemple, yani, elles sont, etc. Naam, pour te, t'emmener vers des endroits visités comme ça. Même pour emmener certains gens visiter leurs parents qui sont en enfer. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, pour les questions, les cinq premières. Tfadla, inshallah ta'ala, pour les cinq suivantes. Allah subhanahu wa ta'ala, a'lam.
Naam, donc la prochaine question. Question de BBA 34. Une sœur demande. Assalamu alaikum, cher. Mon mari a besoin d'explications sur le fait que ce soit nous qui avons la bonne aqida. Minhaj salafi. Il voit certaines personnes se prétendant salafi, mais qui font des choses incompatible à cette aqida, au niveau du comportement surtout. Il ne comprend pas pourquoi ce serait nous qui argumentons avoir la vérité et pas un autre groupe. Il n'accepte pas d'entendre que c'est le minhaj des salafs au travers de Ahlus Sunnah wal Jama'a qui prétendent être le groupe qui ira au paradis. Jazakumullah khayran shir et qu'il ta'ala vous mette, vous et votre famille, sous son ombre le jour. Il n'y aura d'ombre que son ombre. Question de Amatul Haq. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikhana. Pouvez-vous m'expliquer, lorsque l'on demande la demande de protection contre l'enfer ou la demande de paradis, comment devons-nous faire? Que devons-nous dire? Est-ce que cela doit se faire à haute voix? Pouvez-vous me détailler la question barakallahu fikum et me donner un exemple de récitation. Naam, donc, Moussafia, donnez-moi la question, Inch'Allah. Envoyez la moi sur le PV. Si elle est prête, bien sûr. Moussafia, est-ce que la question est prête? Donc, Khair, Inch'Allah, pour ne pas perdre de temps, on passe à la question suivante. Question de Umsana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Avant tout, Inch'Allah, vous allez bien ainsi que votre famille. Sana et Lina m'ont fait promettre de vous passer le salam de leur part. Qu'Allah vous récompense pour tout le temps que vous nous consacrez. Ma question. Chaque année en France, il y a un rassemblement au Bourget qui réunit des intervenants pour parler de religion. En fait, c'est la 27e rencontre, subhanallah, 27 ans, qu'ils sont là à faire leur da'wah. De plus, il y a la mixité. À la mosquée, il a été distribué un tract pour l'annonce du Bourget et permettre aux gens de s'y rendre. Une association Ikhwan a prévu un bus et un prix raisonnable pour les 3 ou 4 jours de conférence. Des sœurs partent sans mahram et surtout, voici la liste des intervenants cette année. Liste intervenant Bourget 2010. Omar Abdelkafi, Abdullah Basfar, Larbi Bishri, Pascal Boniface, Hassan Hussein, Ahmed Jaballah, Raphaël Yogier, Tarek Oublou, Tarek Sweden, Tarek Ramadan, Hani Ramadan, Mohamed Talabi. Sommes-nous responsables de ne pas intervenir? Pouvez-vous nous dire à qui incombe la responsabilité? Est-il permis de distribuer ces tracts? Que devons-nous faire? Barakallahu fikoum, cher. Une personnalité convertie depuis peu écoute votre cours, cher. Quel conseil pouvez-vous lui donner? Elle écoute pour la première fois votre cours, cher. بارك الله فيكم. Donc, cher, actuellement, il y a une personnalité qui est récemment convertie et elle vous écoute. Tfadala, akhir ghulaba.
Donc, j'ai pas eu toutes les questions. Je vais donc lire que les questions que j'ai reçues. Donc, la question de Anna Muslim. Et entre parenthèses, cher, donc la personne à qui vous avez répondu par rapport au baptême, et donc elle demande. Non, cher, il a lu deux questions. Trois questions à la foule. Elle demande si elle peut enregistrer, enfin prendre de l'enregistrement cette partie. Moi je vais lire deux questions, cher. Ça va faire donc cinq, Charles. Donc voilà. C'est la question de Anna Muslim. Salam alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous récompense, cher. Combien de temps a-t-on pour prier salat ad-dhuhr? Y a-t-il un empêchement à ne pas la prier tout de suite sans raison valable? Et est-il vrai que c'est comme ça pour Salat l'Aïcha, qu'il est préférable de la prier dans son deuxième temps? Ensuite, la deuxième question, c'est donc la question de Amina Sarah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum Allah. Subhanahu wa ta'ala. Cheikh, j'aimerais savoir qui seront les personnes qui auront l'immense récompense et le plaisir de voir le visage d'Allah Azzawajal au paradis. Est-ce que c'est tous les habitants du paradis ou non?
Donc pour la première question, je n'ai pas entendu la personne, je crois qu'elle a dit mon père. Et ensuite, vous avez parlé de Sunna ou Jama'a, le Minhaj, etc. Est-ce que cette personne veut dire que son père va entendre ce que je vais dire, ou bien elle veut dire que j'explique, c'est son mari? Taïb, son mari, est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il entend cette réponse? Deuxièmement, pour la personne qui a parlé de la protection contre l'enfer et la demande du paradis, est-ce qu'elle parle de cela dans la salat ou bien pas dans la prière? Tfadal.
Non, mais cher, c'est dans la salat. Et pour l'autre personne, je lui ai demandé est-ce qu'il est là, son mari, mais j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Tfadal, cher.
Pour la première question, pour elle a dit, Tfadal, elle a dit non. Je dis, pour la personne, Nam, qui parlait des Salafi et qui disait qu'ils ne représentaient pas Al-Sunna ou Jama'a et qu'ils avaient des fautes, etc. Donc je voudrais dire d'abord que l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel pour tout musulman, c'est d'être sur le droit chemin. Le droit chemin, de nos jours, est disputé par beaucoup de sectes. Et chaque secte dit, c'est nous qui sommes sur le droit chemin. Or, si on revenait vraiment à la vérité, et on comparait entre ce que disent toutes les sectes, vous allez trouver que le meilleur groupe, c'est le groupe qui s'appelle, de nos jours, Al-Sunna ou Jama'a, et qui s'appelle aussi, Yanni, qui suit le rite salafiste, le rite des salafis. Mais les salafis, c'est-à-dire les vrais, pas, comme on dit aujourd'hui, les salafis du djihad, les salafis du combat, les salafis de Ben Laden, les salafis de je ne sais pas qui. Ce ne sont pas ceux-là les salafis. Les salafis, c'est ceux qui suivent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons et leurs enfants, yani, sur la aqida, sur le minhaj, et sur la voie qui mène vers Allah subhanahu azza wa jal. Ensuite, le fait que les salafis font des fautes, ça ne veut pas dire que le minhaj en lui-même est faux. C'est comme les musulmans. Les musulmans, beaucoup d'eux boivent de l'alcool. Et beaucoup d'eux font la fornication et mentent quand ils parlent. Mais cela n'empêche que l'islam est la vraie religion et la plus belle. Et la plus belle et la meilleure, et qu'il n'y a que l'islam qui est valable. Et pourtant, regardez combien il y a de musulmans qui font des fautes et qui font des péchés. La même chose, tu peux être salafi, tu peux être al-sunna al-jama'a, et il y a d'autres qui yani, amochissent yani, ton minhaj et ce que tu es en train de suivre, soit yani, en le faisant yani, expressément yani, pour amochir, ou bien yani, ils font des fautes comme tout le monde fait des fautes. Mais je voudrais rassurer la personne que de nos jours, Nam, seul ce groupe et son minhaj, le minhaj qui suit, c'est le seul bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers son paradis. Et que tous les autres minhaj ont quoi? Ont des bid'ah, ont des innovations dans leurs adorations, hein, et mènent vers l'enfer. Certains mènent vers l'enfer éternellement, a'udhu billah, comme le minhaj des chiites qui insultent les femmes du prophète islam et qui les calomnient, hein, et qui font le shirk dans l'adoration et qui demandent de secours à Hussein au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres minhaj qui quoi? Qui mènent vers le feu et font rentrer au feu, même si après ils vont sortir, comme les khawarij et les takfiri de nos temps. Oulayadu billah. Al-Muhim, toute personne, toute musulmane, l'âme, doit se proclamer de minhaj al-sunna al-jama'a. Certains l'appellent salafi, l'autre dit minhaj al-sunna al-jama'a. Et si on dit minhaj al-sunna al-jama'a, c'est mieux pour ne pas faire peur aux autres. Car certains et beaucoup croient que salafi c'est une secte et que c'est grave. Et que yani, c'est des terroristes ou je ne sais pas quoi. Alors pour éviter de leur faire peur, quand je suis avec quelqu'un qui n'a pas de science, il me demande de qui tu es, je lui dis sunna ou jama'a inshallah. Naam. Mais si yani, je suis avec des gens qui ont de la science et qui, mashallah, connaissent bien les sectes, naam, je dis que, alhamdoulilah, je suis les salaf salih, je suis leur minhaj, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et sunna ou jama'a, les salafis, les vrais inshallah ta'ala, naam, ce sont les gens qui connaissent mieux al-haq et qui sont des plus miséricordieux envers quoi? Envers al-khalq. C'est pour ça que al-sunna, qu'est-ce qu'ils disent en arabe? Ils disent hum a'lamu an-nasi bil-haq wa arhamuhum lil-khalq. Le vrai salafi, le vrai al-sunna al-jama'a connaît mieux que quiconque la vérité. Car il suit vraiment le prophète alayhi salam et vraiment il s'éloigne de toute bid'ah. Et c'est lui le plus miséricordieux envers les créatures d'Allah. Car plus tu connais le din, plus tu deviens miséricordieux envers qui? Envers Allah, envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils soient des êtres humains, ou qu'ils soient des animaux, ou qu'ils soient des insectes. Tu vois pas que, en suivant le vrai minhaj, en étant al-sunna al-jama'a, tu connais donc tout, beaucoup de hadiths. Donc tu connais le hadith qui dit que c'est interdit de tuer la fourmi. Le hadith qui dit c'est interdit de tuer la grenouille. Le hadith qui dit c'est interdit de tuer comment s'appelle Jarad, j'ai oublié comment s'appelle en français. Celui qui vient en groupe comme ça, et il mange tout. C'est pas les hirondelles. Ils mangent yani, le blé, ils mangent tout. Yani, aussi, s'ils arrivent dans un champ, ils mangent tout. Comment ils s'appellent? Les sauterelles. C'est interdit de tuer la sauterelle. Tu connais le hadith qui dit c'est interdit de... Bon, j'ai cité la fourmi, la grenouille. La sauterelle. Bon, ça c'est un exemple. Hein. Et de tuer tout animal sans quoi? Sans cause. Alors, qu'en est-il de tuer un être humain? Qu'en est-il de tuer un être humain? Et de faire la da'wa aux gens en leur apprenant l'amour mutuel, l'âme, l'amour du voisin, l'amour d'autrui. Regardez, rentrez dans les salons des takfiris et écoutez qu'est-ce qu'ils apprennent aux gens du matin au soir. Mécréants, pervers, salauds, kafir, hypocrite, du matin au soir, naam, Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Al-Muhim, quant à la deuxième personne qui a posé la question sur la protection contre l'enfer, etc., il faudrait qu'elle sache que cette chose se fait dans salat nafila. On ne fait pas cette chose dans la salat obligatoire, d'après l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, et que l'affaire dans la nafila, c'est par exemple quand tu lis par exemple un verset, tu lis par exemple, lorsque Allah Ta'ala dit, je donne un exemple, lorsque Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Ta'ala fera rentrer ceux qui les croyants et ceux qui font les bonnes actions des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux. Tu t'arrêtes, tu dis par exemple, Allahumma trinni jannatak. Ya mon Seigneur, faites-moi rentrer votre paradis. Et comme ça, à chaque fois que tu lis un verset où il y a le mot paradis, Allah subhanahu wa ta'ala fait rentrer au paradis, ou Allah ta'ala, comme il a dit dans un autre verset par exemple, a'addalhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Il leur a préparé des versets sous lesquels coulent des ruisseaux. Tu t'arrêtes, tu dis, ya Allah, faites-moi rentrer votre paradis. Ya Allah, atrinni jannatak, par exemple. Ici, il y a un verset où il parle de Jahannam. Par exemple, il dit que... Non, il n'y a pas de doua précise. Justement, il n'y a pas de doua précise. À voix haute ou à voix basse, comme tu veux. Comme tu veux. Tu te fais entendre. Tu te fais entendre. Mais ce n'est pas dans ton cœur. Ce n'est pas dans ton cœur. Naam. Il faut au moins que tes lèvres bougent. Tes lèvres bougent. Si tu es seul, tu peux le dire un peu à haute voix. Si tu es avec des gens ou là des gens, il y a des gens avec toi dans ta chambre, ne le fais pas à haute voix pour que ne pas rentrer dans l'ostentation. Naam. Sauf si tu veux leur apprendre une sunna, inshallah, pour qu'ils te demandent pourquoi tu as fait ça, tu dis car c'est une sunna. Naam. Et quand il y a un verset de l'enfer, lahum par exemple, nar ou jahannam, dès que tu arrives à ce verset, tu t'arrêtes, tu dis, Allahumma qini, qini adabak. Oh Allah, préservez-moi de votre châtiment. Oh Allahumma qini jahannam. Oh Allah, préservez-moi de l'enfer. Et comme ça, c'est toi qui choisis ce que tu dois dire. Il n'y a pas de doua précise, inshallah ta'ala. Naam. Pour la urte Sana, je dis wa alayki salam wa ala Sana walina. J'espère qu'elle se porte bien, inshallah ta'ala, et que on les verra très bientôt, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Quant au rendez-vous hada de Bourget, quelque chose comme ça, si j'ai bien entendu, ayant entendu les gens qui vont assister, donc tous ceux qui vont assister là-bas sont l'une des deux choses. Il n'y a pas une troisième chose. Tous ceux qui vont assister là-bas sont dans l'une des deux catégories. La première catégorie, ce sont des mubtadi'a. Des mubtadi'a de Ikhwan Muslimin et Tabligh, etc., qui vont aller assister. Ou alors la deuxième catégorie, ce sont quoi? Ce sont des ignorants. Je dis par ignorants, des gens peut-être qui sont nouveaux dans le din, des reconvertis qui viennent de rentrer, ou qui ne connaissent rien du minhaj, ils vont monter msakan et ils vont partir croyant qu'ils vont aller chez des savants apprendre la religion. Donc il n'y a pas trois choses. Ou bien, ils ont un peu de science, etc., et ils veulent aller, et ils parlent avec des preuves, soi-disant des preuves, etc. Ce sont des mubtadi'a. Ou bien miskin, il dit, moi je vais là-bas, je vais apprendre, il y a des savants, etc. C'est un miskin celui-là, il ne connaît rien dans le dîn, il est nouveau. Et peut-être que nous tous, on est passé par ce chemin lorsqu'on était nouveau. Allah subhanahu wa ta'ala, alam na'am. Quant à reste, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. On ne doit pas distribuer ces tracts, et on ne doit en aucun cas participer et aider une personne qui veut aller là-bas. Au contraire, si on peut, on fait la da'wa à ceux qu'on connaisse pour qu'ils n'y aillent pas, mais sans faire de fitna. C'est-à-dire, je ne vais pas me lever comme ça dans la mosquée et dire attention, n'y allez pas, parce que je vais faire une fitna et ça va se retourner contre moi, surtout si je suis dans une ville où les gens n'ont pas de science et que la plupart sont des ignorants, bien des innovateurs. Donc moi, quand je connais quelqu'un, je lui dis, voilà, tu vas là-bas, vraiment, c'est comme si, tu non seulement tu perdais ton temps, mais encore tu vas te remplir de péchés, de bid'a, et tu vas revenir. Tu vas perdre ton temps pour rien. Et chacun va dire à l'autre, naam. Et comme ça, on fait la da'wa, inshallah, de, comment on peut. Si on ne peut pas, l'essentiel, je sauve ma peau. L'essentiel, je sauve ma peau, moi je n'y vais pas. Et mes enfants n'iront pas. Maintenant, si je peux, étendre encore ma dawa, je l'étends. Si je peux pas, Allah Ta'ala ne va pas me dire pourquoi. C'est tout ce que je peux faire. Je me sauve moi. Et ce que je peux sauver, ce sont mes enfants. C'est tout dans ce cas. Allah Subhanahu wa Ta'ala alam. Ensuite, pour la personne qui a dit, Non, une seconde. La personne qui a parlé de Salat al-Dhuhr et Salat al-Isha, je voudrais lui dire en général, que toutes les salats, yani, quand on les fait à leur première heure, c'est ça la meilleure des choses. Car le prophète, alayhi sallam, on lui a demandé quelles sont les meilleures choses, meilleures actions, ou là, il a dit, c'est de faire la prière en sa première heure. Même Salat al-Isha. Salat al-Isha. Salat al-Dhuhr, quand tu entends l'adhan, si tu peux, tu fais la salat en son première heure. Et plus. Quels sont les délits du fait que c'est interdit de distribuer les tracts? Les délits qui disent que c'est interdit de distribuer les tracts, c'est le verset. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ta'awanu al birri wa taqwa. Aidez-vous, nam, al birri wa taqwa. Aidez-vous dans l'accomplissement du bien et la piété. Et ne vous entraidez pas dans la turpitude et yani, l'autre chose, et la transgression. Et ici, distribuer un tract, ça veut dire, c'est comme si tu parlais. Distribuer un tract, ça revient à quoi? À prendre le micro et dire aux gens, allez au Bourget, y a des cours là-bas. C'est la même chose. Quand tu donnes un tract ou tu parles, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc, distribuer un tract, ça revient à dire aux gens, je vous exhorte à aller là-bas. Et si tu les exhortes à aller là-bas, donc il n'y a pas de différence que tu ailles toi aussi, puisque tu dis aux gens, on va aller là-bas. Pourquoi toi tu vas pas? C'est un exemple, naam. Donc, inshallah ta'ala, il ne faut pas distribuer les tracts et s'en éloigner, inshallah ta'ala. Pour les salawat, la meilleure des choses, c'est de faire les salats en leur premier temps. Comme a dit le prophète, alayhi salam. Toutefois, il n'est pas interdit de retarder la salat. Naam, je la retarde d'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Surtout, si ce n'est pas salat al-subh et ce n'est pas salat al-maghrib. Car ces deux-là sont plus ou moins courtes. Mais si c'est dhuhr, asr, isha, je peux la retarder une demi-heure, 1 heure moins quart, jusqu'à 1 heure. Naam, je peux. Mais, plus je retarde, plus yani, les récompenses diminuent. Celui qui l'a fait juste après l'adhan, je donne un exemple. Il a 100 hasanat, c'est un exemple. Ensuite, un quart d'heure après, ça devient par exemple 99. Ensuite, ça descend 98, 97. Mais tu n'as pas de péché. Ensuite, va arriver un moment, à peu près 2 heures après, ou là 1h30 après, va arriver le moment où non, ça devient avec les péchés. Ça devient avec les péchés. Comme l'asr par exemple, lorsque le soleil commence un peu à rougir. Tu vas faire salat l'asr avec des péchés. Comme salat al-dhuhr, lorsque le moment du asr est prêt. Naam. Dans ce cas, ça devient quoi? Ça devient, comme vous savez, interdit. Et la isha, c'est la même chose. Si tu l'as fait en son premier temps, c'est la meilleure des choses. Si tu veux spécialement la isha, la laisser un peu pour la faire en groupe, c'est bien. Spécialement la isha. Si on la laisse un peu, Naam, parce que dans une demi-heure ou là, dans 1 heure ou là, on va la faire en groupe. Naam, c'est mieux. Il y a un hadith spécialement sur ça, l'Aïcha. Quant à qui verront le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que certains le verront, d'autres le verront pas? Toute personne qui rentrera au paradis aura la faveur et la grande faveur de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit dans le Coran, al-ara'iki yanzurun, il a dit sur des divans en train de regarder. Il regarde quoi sur les divans? Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'a pas cité. Naam. Comme il a dit, wujuhun yawma'idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Des visages en train d'attendre. Ensuite il a dit, ila rabbiha, des visages nadhira, nadhira, c'est-à-dire gay. Ensuite il a dit, ila rabbiha nadhira, en train de contempler leur Seigneur. Donc toute personne qui va rentrer au paradis reste, comme disent les savants, ce n'est pas tous les gens du paradis qui le verront, yani la même fois, le même nombre de fois. Non. C'est pour ça que les savants disent, il y a des gens qui verront par exemple Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir, et d'autres peut-être le verront une fois par jour, d'autres peut-être une fois par semaine, peut-être une fois par mois, et comme ça. d'après, bien sûr, qu'est-ce qu'il faisait ici comme action, et d'après la sincérité qu'il avait ici, et d'après, vous n'allez pas me dire que Allah Ta'ala, le plus juste et le plus équitable, va donner la même récompense à quelqu'un qui dort toute la nuit et quelqu'un qui fait la prière toute la nuit. À quelqu'un qui mange toute la journée et à quelqu'un qui jeûne toute la journée pour son visage. Est-ce qu'il va leur donner la même récompense? Si quelqu'un le ferait dans cette vie, on va dire de lui, c'est un injuste. Cette personne-là, c'est une injuste. Naam. Qu'en est-il d'Allah subhanahu wa ta'ala? Certaines personnes dorment toute la nuit et d'autres passent la nuit à prier. Est-ce qu'elles seront la même chose dans le paradis? Non, sûrement pas. Et que Allah subhanahu wa ta'ala donnera des faveurs qu'il ne donnera pas à d'autres. Al-Muhim, je rassure, Inch'Allah ta'ala, tous les croyants que tout croyant qui rentrera au paradis verra Allah subhanahu wa ta'ala au moins une fois dans sa vie. Au moins une fois dans sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala, la yuhrimana, naam, nadara, ila wujihil karim. Enfin, pour la personne qui est convertie et qui écoute les cours, je lui dis, awalan, marhaban bik, deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, louange Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a donné cette faveur d'avoir ouvert ton cœur à cette religion et de t'avoir guidé vers le chemin qui mène vers le paradis. Naam. Je donnerai seulement deux ou trois conseils comme ça très vite. Le premier conseil, Akhi Karim ou bien Orti, sache que, Naam, c'est une sœur. Naam. Donc Orti Karima, il faudrait savoir, Inch'Allah Ta'ala, chère sœur, que Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créé, qui nous a demandé de l'adorer, naam, nous a laissé, naam, ou bien nous a envoyé tout ce qui est capable de te montrer par détail comment adorer le Seigneur Azza wa Jalla. Et ceci se trouve dans trois choses, dans le Coran, la Sunna du prophète alayhi salam et la compréhension des salafs. C'est très important. Le Coran et la Sunna, les hadiths, ces deux-là, comment qu'on va les comprendre? On va les comprendre d'après comment les ont compris les pieux prédécesseurs, et non pas comme les ont compris les sectes égarées. Première des choses. C'est un peu, pour que vous compreniez un peu, c'est un peu comme quelqu'un, par exemple, qui fabrique une machine à laver. Cette machine à laver, par exemple, elle est vraiment, yani, dernier modèle, elle a des options vraiment, yani, mashallah. D'ailleurs, ce sera plus ou moins difficile de la faire fonctionner, mais alhamdoulilah, celui qui t'a vendu, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner un petit livre qui s'appelle un guide. Plus tu lis à l'intérieur, plus, mashallah, tu sauras comment faire fonctionner cette machine à laver pour arriver vraiment à un lavage, disons, à 100%. Mashallah, pour que les vêtements soient vraiment blancs, qu'il n'y ait pas de taches, etc. Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé comme ça un Coran, une sunna, et si on les suit d'après la compréhension des salafs, on va arriver, inshallah ta'ala, à la meilleure des fins, qui est le paradis, le visage d'Allah ta'ala, mais aussi ici dans cette vie, tu vas vivre la vie la plus merveilleuse qui puisse exister, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, deuxième conseil, c'est pourquoi il faudrait faire des efforts pour avancer dans cette religion. Et avancer comment? Ce n'est pas en construisant des revolvers et en aiguisant les sabres pour aller tuer les gens. Mais c'est en avance, en apprenant sa religion. En apprenant sa religion, chaque jour on apprend quelque chose, et comme ça on avance. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il a dit, لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمْ أَوْ يَتَأَخَرْ. Il a dit, pour celui qui d'entre vous voudrait avancer ou reculer. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Voudrait avancer ou reculer. Ça veut dire qu'en islam, il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu dans le ilm. C'est-à-dire, ou bien tu avances ou bien tu recules. Il n'y a pas, tu stagnes. Alors, qu'est-ce que tu fais? Il te dit, je stagne, il n'y a rien. Ça fait 2 années que je n'ai pas ouvert un livre. Je stagne. C'est pas vrai. Il est en train de revenir marche arrière, il ne sait pas. Car Allah ta'ala dit, pour celui qui veut avancer ou reculer. Alors, toi, Inch'Allah ta'ala, pour avancer, naam, tu dois, comme ça, lire certains livres, écouter des cours et comme ça. Et là, je profite pour donner le, peut-être le conseil le plus important pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de bien et de faire beaucoup beaucoup d'efforts pour choisir quels sont les livres qu'il faut lire et quels sont les savants qu'il faut écouter. Quels sont les livres qu'il faut lire, et quels sont les savants qu'il faut écouter. Naam, c'est pour ça que tu devrais choisir un entourage qui soit mashallah pour qu'il te guide aussi, et que tu ne tombes pas de faux musulmans comme on dit. Naam. Et enfin, la troisième rahot, c'est de bien mettre dans ta tête, inshallah ta'ala, que il y a islam et il y a musulman. Il y a islam et il y a musulman. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit de suivre l'islam et non pas les musulmans. Pourquoi? Parce que tu vas trouver. C'est pour ça que quand tu connais cette chose dès maintenant, tu ne vas pas t'étonner après. Tu dois savoir dès maintenant et mettre dans ta tête qu'il y a beaucoup de musulmans qui font des fautes. Plein de fautes chez les musulmans. Mais que alhamdoulillah, Allah ta'ala ne m'a pas dit de choisir de suivre les musulmans. Ni X ni Y, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète c'est l'islam. Donc il t'a dit de suivre l'islam. Alhamdoulillah. C'est pour cela que je voulais dire que citer la parole du converti. Naam. Il y a un converti, un reconverti qui s'appelle Étienne Diné. Étienne Diné. Quand il s'est converti, il s'est fait appeler Nasreddin. Nasreddin. Naam. Étienne Diné, Nasreddin. Celui-là, il est mort ici en Algérie, dans le sud. Bien sûr, il a épousé une Algérienne et il est mort ici. Celui-là a dit une phrase très célèbre. Il a dit Alhamdulillah, c'est-à-dire gloire à Allah. Alhamdulillah, que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. Alhamdulillah, que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. Si quelqu'un connaît seulement les musulmans, il ne connaît pas l'islam, il va dire, moi je me désavoue de cet islam. Pourquoi? Tellement les musulmans font des fautes et tellement ils ne pratiquent pas et tellement ils mentent quand ils parlent, tellement ils ont de l'hypocrisie, tellement. Naam. Et enfin, attention, ma soeur, sans que tu le veuilles, attention que tu te trouves dans une secte égarée sans que tu le saches. Tu peux te trouver chez les Habash, tu peux te trouver chez les Tablir, chez les frères musulmans, chez les Soufis, chez les Rawafid, les Chiites. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que sa nation allait se diviser en 73 groupes. Et que 72 groupes des 73 iraient en enfer. Qu'un seul groupe irait au paradis. C'est ce groupe qui nous, inshallah ta'ala, on fait tous nos efforts pour être de lui. Pour être de ce groupe et pour montrer aux gens que voilà le groupe qui sera sauvé et qu'il faut suivre. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala t'aide, t'ouvre ton cœur encore davantage et fasse de toi une bonne musulmane. Tfadl akhi karim.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, cher, il est 23h53 et vous nous aviez dit de vous rappeler lorsque minuit approchait. Donc, Allah wa alam, ça sera peut-être la dernière série des questions. Et je voulais également vous dire, cher, qu'on va avancer d'une heure en France, cette nuit. Donc, nous, chez vous, lorsqu'il sera 21h30, au prochain cours, il sera 22h30 chez nous. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir un décalage au niveau des horaires des Doros. Lorsqu'il sera 21h30 chez vous, il sera 22h30 chez nous. Donc, les prochaines questions... Non, mais c'est sûr, cher. C'est sûr, c'est cette nuit. Dans quelques heures. Allahu alam, c'est vers 2h ou 3h, on doit rajouter une heure. C'est sûr et certain. À 2h. Voilà. À 2h, on rajoute une heure. Donc lorsqu'il sera 2h en Algérie, il sera 3h chez nous. Donc la question, étant donné que tout à l'heure on a refusé la question du frère Ibn Al-Qayyim Al-Jawziya, il a une autre question. Salamu alaykum shir, hayakum Allah. Ce hadith est rapporté par Muslim. Que veut dire la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout le bien est entre tes mains, quant au mal, il ne t'est pas attribué, alors que Allah est le créateur de toutes choses. Question suivante, question de Safiya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakum Allah, shir, ainsi que les admins. Une sœur voudrait faire la hijra seule avec son enfant, mais elle hésite entre l'Égypte et l'Algérie. Sachant qu'elle est algérienne, Elle opterait plus pour l'Égypte en raison des nombreuses écoles réputées et du fait qu'elle connaît des sœurs établies là-bas. Mais sa famille n'accepte pas et préfère au pire qu'elle aille en Algérie, où elle ne connaît personne qui pourrait l'aider à s'installer. Que pourriez-vous lui conseiller, cher? Qu'Allah vous protège et vous accorde le plus haut degré du paradis, pour toute l'aide et la science dont vous nous faites profiter. Barakallahu fikoum. Question de Islam 331. Salam alaikum. Hayakumullah, cher. Ma question est, que faut-il faire si un acte obligatoire a été entaché d'ostentation et n'a pas été totalement voué à Allah? Faut-il arrêter de faire cet acte en sachant que c'est un acte obligatoire? Que faut-il faire pour y remédier et cesser d'avoir des waswas? Jazakumullah khairan, qu'Allah vous accorde le paradis ainsi qu'à toutes les personnes présentes sur cette room. Tfadala khair ghulaba.
Cher, je voudrais juste rappeler, il y a une sœur qui a demandé tout à l'heure par rapport à si il y avait des restes d'aliments dans les dents. En fait, elle a une dent creuse, une dent qui est creuse. Et donc la nourriture elle rentre dans la dent creuse. Donc pour être rassurée, elle veut savoir est-ce qu'elle est obligée à chaque fois de nettoyer cette dent creuse et faire l'eau d'eau pour faire la prière. Voilà, et donc encore une chose qu'il faut confirmer. Le frère il dit par rapport à Salat ad-Dhuhr, le fait de reculer Salat ad-Dhuhr d'une heure, est-ce que on fait des péchés en faisant ça? Il voudrait savoir, il devrait que vous lui expliquiez mieux. Donc je vais commencer donc par rapport à la question du frère Abou Anes 67. Salam alaikum shir, hafizakumullah. Pouvez-vous réexpliquer qu'est-ce que les sept terres? Hayyakumullah. Le frère Abdul Hakim 7. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ya shir. Je voudrais savoir quand Allah parle des sept cieux et des sept terres. Je comprends ce que sont les sept cieux, mais je ne comprends pas ce que sont les sept terres. Pouvez-vous m'expliquer, Inch'Allah? Voilà, Cheikh, barakallahu fikoum.
Salam alaikum, fils. Alhamdoulilah. Muslim, je n'ai pas entendu toutes les questions. Naam. Par exemple, en ce qui concerne celle qui voulait faire la hijra en Égypte, naam, en disant qu'il y a la famille qui est là-bas, qui voudrait qu'elle aille en Algérie. Est-ce qu'elle veut dire la famille, son père et sa mère ou la d'autres? Ensuite, voilà, j'ai entendu cette question, cette la hijra. J'ai entendu, est-ce que le mal, hein, comment le mal yani, a été créé? Comment le mal a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Ensuite, j'ai entendu celle des cieux, celle de là-dedans. Là-dedans. Et ensuite, j'ai pas bien compris celle des sept cieux.
Non, mon cher, donc la question sur la hijra, c'est pas sa famille. En fait, donc elle hésite entre l'Égypte et l'Algérie, car en Égypte, elle connaît des sœurs qui sont là-bas, qui ont fait la hijra et qui pourraient lui faciliter sa hijra en, je sais pas moi, peut-être pour trouver du travail ou là un appartement, Wallahu alam. Et en Algérie, elle connaît personne là-bas, mais étant originaire d'Algérie, ses parents préféraient, donc ils sont contre la hijra, mais ils préféraient au pire qu'elle aille en Algérie et pas en Égypte, de par ses origines. Et l'autre question, c'était, que veut dire la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout le bien est entre tes mains, quant au mal, il ne t'est pas attribué, alors que Allah est le créateur de toutes choses, les parents, le père et la mère. Safia, c'est les deux parents. Naam, c'est les deux parents, cher. Les deux parents sont contre. Mais au pire, si elle fait la hijra, il voudrait que ce soit en Algérie et pas en Égypte. Et la sœur dit plus la mère. C'est plus la mère qui est contre, qui s'y oppose. Tfadal Akhil Roulaba pour les questions du UNSPEAK.
Donc par rapport à la question qui concerne les sept cieux et les sept terres. Moi, je vais répéter donc parce qu'en fait les deux questions se rejoignent. Le frère voudrait savoir, lorsqu'on parle des sept cieux, il comprend aussi ce que ça veut dire. Mais il comprend pas c'est quoi les sept terres. Il comprend pas en vérité ce que ça veut dire. Et il demande juste une explication. Est-ce que vous avez compris, cher? Ou sinon, je répète la question entièrement. Donc, trop d'alchimie.
Non, j'ai compris cette question, j'ai compris cette question. Mais il manque une ou deux questions. Il manque une ou deux questions. Non, celle des dents a dit qu'elle avait une dent creuse. Non, mais il y avait aussi autre chose après que je n'ai pas entendu. Non, et il y a aussi une autre question que j'ai pas entendue, je suis sûr. Tfadal.
Non, cher, en fait, j'ai dit tout à l'heure, il y a une première question. Le frère, il demande, pouvez-vous réexpliquer qu'est-ce que les sept terres? Et après, il y a un autre frère qui demande dans une autre question, qui est à peu près la même chose. Il dit, je comprends c'est quoi les sept cieux, mais il comprend pas c'est quoi les sept terres. Ça veut dire que, si vous voulez, je pose une autre question. Mais là, c'est deux questions en une seule, si vous voulez. Celle de la dent, en fait, cette question elle a été posée par la soeur au début. Elle a dit, avant de faire les ablutions, l'odon, elle se brosse les dents. Par contre, s'il reste un peu d'aliments dans les dents, est-ce que ça peut donc annuler ses ablutions? Ou alors elle doit prendre des précautions de bien se brosser les dents, mais elle dit qu'elle a une dent creuse, c'est-à-dire qu'il y a un trou et les aliments ils rentrent dedans. Et elle demande est-ce qu'elle doit tout le temps nettoyer sa dent creuse, enlever les aliments qu'il y a dedans, et après faire l'odo à chaque fois. Wallahu a'lam.
Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, Inch'Allah ta'ala pour les horaires, plus les horaires. Donc, c'est-à-dire que on sera obligé de, par exemple chez moi, de faire le cours ici, entre Salat al-Maghrib et l'Aïcha, comme on faisait autrefois. Ensuite, je vais à la Salat l'Aïcha, et je reviens, je fais les questions-réponses, Inch'Allah ta'ala. C'est compris. Je fais Inch'Allah le cours, ensuite je vais à la Salat l'Aïcha, et je reviens faire les questions. Donc, pour la première question des sept terres, sais pas s'il a demandé un délit ou là c'est quoi, le mohim, il y a sept terres, d'après le verset et d'après le hadith. Le verset, il est clair, dans sourate, si je me rappelle, sourate Talaq, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat. Allah qui a créé sept cieux. Wa min al-ardi, et des terres, mithlahunna. Et des terres, yani, comme les cieux. C'est-à-dire, sept aussi. Et le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que lorsque l'ange de la mort enlèvera l'âme du kafir, qu'il essaiera de monter vers les cieux, il ne pourra pas. Il a dit alors, il descendra avec cette âme, jusqu'à, au plus profond de la terre, jusqu'à la septième terre, comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Reste, qu'est-ce que ça veut dire, cette terre? Certains ont dit, ce sont des couches, ce sont des couches. La première couche, la deuxième, la troisième, jusqu'à la septième. Et d'autres ont dit non, on laisse ça sur l'apparence. On dit qu'il y a sept terres, même si on ne les a jamais vues. On croit en cette chose, comme on croit aux autres choses qu'on n'a pas vues. On croit qu'il y a sept terres, même si on ne les a pas vues et qu'on ne peut pas les voir. Certains ont dit, on laisse ça sur les apparences, c'est mieux. Et certains ont dit, comme j'ai dit tout à l'heure, que c'était des couches. Non. Pour la personne qui veut faire la hijra en Égypte, etc., bien sûr que pour la science et l'arabe et les enfants, l'Égypte est mieux. Mieux que l'Algérie. L'Algérie, c'est très difficile, yani, surtout ces temps-ci. Il n'y a pas des choses pareilles, sauf si on les envoie dans une école privée d'Arabie Saoudite là, qui se trouve à Alger. Et cette chose aussi n'est pas donnée à tout le monde. Non. Ensuite, il y a autre chose, c'est quoi? C'est le fait que les parents insistent pour qu'elles viennent en Algérie. Alors que pour qu'elles ne désobéissent pas à ses parents, il faudrait qu'elles fassent quoi? Qu'elles fassent l'impossible. Pourquoi? Pour les convaincre. Pour les convaincre que c'est juste un temps et que juste pour que les enfants grandissent un peu et apprennent l'arabe, etc. Et qu'Inch'Allah ta'ala, elle viendra en Algérie. Et que l'Égypte, c'est juste une période, Inch'Allah ta'ala. Une mohim, elle doit faire son possible pour les convaincre, Inch'Allah ta'ala. Mais pour les enfants, je dis que l'Égypte est mieux pour l'arabe et le din. Quand je dis le din, pas les écoles officielles, là. Les écoles officielles, c'est connu là-bas que c'est le soufisme, l'azhar, etc. Je parle pour yani, l'arabe, surtout l'arabe. Sinon, yani, il faudrait connaître des personnes qui sont vraiment dans le minage pour les donner à leurs enfants. Sinon, yani, ça devient yani, mouchkila. Quant au mal, la troisième question. Pour le mal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. On ne dit pas comme les sectes égarées qui disent que c'est Shaitan qui a créé le mal. Mais le mal, même si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé, on ne doit pas yani, l'annexer à Allah subhanahu wa ta'ala sur le plan des actes et des faits. Mais on l'annexe à Allah subhanahu wa ta'ala sur le plan que c'est lui qui l'a créé, le créateur de toutes choses. Khaliqu kulli shay, comme on dit dans le Coran. Donc Allah ta'ala a créé le mal, mais c'est pas lui qui le fait. Ce sont les créatures qui font le mal. Et autre chose, Allah ta'ala, quand il a créé le mal, c'est un bien. C'est-à-dire, c'est pas un mal en toute chose. C'est un mal, apparemment un mal, mais qui est un bien. Vous remarquez que le fait qu'on coupe la main à un malade, ou bien on lui coupe son pied à cause de la gangrène. C'est un mal de lui couper le pied ou la main. Apparemment, c'est un mal. Mais c'est un bien pour lui. Pour que la maladie ne se propage pas vers l'autre main et l'autre pied. Et comme ça. Donc le mal, c'est Allah Ta'ala qui l'a créé. Mais ce sont les personnes, yani les créatures, qui font le mal. C'est pour ça qu'Al-Sunnah al-Jama'a disent, on n'annexe pas le mal à Allah subhanahu wa ta'ala que du point de vue création. Du point de vue création. Naam. Et Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, une seconde, inshallah ta'ala, je vous fais expliquer ce hadith. Quel hadith? Naam, je vais l'expliquer, inshallah ta'ala. Naam, et Cheikh Islam Ibn Taymiyyah aussi a montré dans son livre Minhaj Sunnah que Al-Sunnah al-Jama'a annexe et dise le mal en trois choses. Ou bien, à la jihad al-umum, yani, comme par exemple dans Sourate Al-Falaq. Qul a'oudhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Non. Pardon, c'est à la Sourate Al-Umum. À la jihad al-umum, c'est-à-dire pour la généralité. Quand on parle de mal, non, et qu'on veut parler de Allah subhanahu wa ta'ala, on dit en général, Allah ta'ala a créé toute chose, et dans cette chose rentre le mal. Ou bien, on va l'annexer aux créatures, comme Allah ta'ala a dit dans Sourate Al-Falaq. Min sharri ma khalaq. Je me réfugie auprès d'Allah du mal de ses créatures. Ou bien, on ne va pas citer qui est son sujet. Comme dans Sourate Al-Jin, wa inna la nadri asharrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashada. Et on ne sait pas si un mal, yani, attendez, comment je vais traduire en français, si un mal, yani, va leur être destiné, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala leur veut du bien. Regardez ce verset. On ne sait pas si un mal va leur être destiné. Et le verset n'a pas dit si un mal Allah Ta'ala va leur faire, mais va leur être distillé. Il ne veut pas montrer qui c'est qui va leur faire du mal. Et ensuite, il a dit, ou bien, Allah Ta'ala va leur faire un bien. Quand c'est le bien, il a cité Allah. Il a dit, Allah va leur faire un bien. Et quand c'est un mal, il n'a pas voulu le citer. Et enfin, pour la personne qui a le trou dans la dent, je lui dis que ce n'est pas une obligation de rentrer quelque chose dans sa bouche, dans sa dent, pour yani, enlever ce qu'il y a à l'intérieur pour faire des wudu. Ce n'est pas une obligation. Mais je demande, plutôt, c'est pas je demande, je donne un conseil à cette sœur, je lui donne un conseil, inshallah ta'ala, pour ne pas rentrer dans les ouswes, d'aller chez le dentiste plomber sa dent. D'aller chez le dentiste, elle va plomber sa dent, inshallah ta'ala, comme ça, elle éloignera d'elle les ouswes. Et je la rassure que ce n'est pas obligé qu'elle rentre quelque chose dans sa dent pour la nettoyer avant le wudu, ni de refaire des ablutions après avoir fait la salat, ou bien après avoir découvert quelque chose. Dites-moi si je n'ai rien oublié dans les questions. Enfin, pour le hadith qui dit « Celui qui change sa religion, tuez-le ». Vous savez qu'il y a un hadith en islam qui dit « Quiconque change de religion, change sa religion, tuez-le ». Bien sûr, ce hadith est en train de parler du musulman. Il n'est pas en train de parler du chrétien, s'il va rentrer en islam, on va le tuer. Ni du bouddhiste qui va rentrer en islam, qu'il faut le tuer. Mais il parle du musulman. Pourquoi? Parce que l'islam est très clair. L'islam ne t'a pas obligé à rentrer dans la religion. Il t'a fait choisir, il t'a dit, si tu veux, celui qui veut de vous, qu'il croit, celui de, qui ne veut pas de vous, qu'il mécroit. Mais attention, attention, celui qui va croire, voilà ce qu'il attend, Yom al-Qiyama, et celui qui va mécroire, voilà ce qu'il attend, comme l'enfer, etc. C'est pour ça qu'il a dit, la ikrafiddin, pas de contrainte dans la religion. Mais maintenant qu'une personne a décidé de rentrer dans l'islam, elle n'a plus le droit de le quitter. Pourquoi? C'est pour ça que si elle le quitte, elle est devenue plus mécréante que le mécréant qui n'est pas rentré dans l'islam. Pourquoi? Car le mécréant qui n'est pas rentré en islam, on ne le tue pas. On n'a pas le droit de le tuer s'il ne nous fait pas la guerre. Pourquoi? Car il n'a pas connu l'islam. Il n'a pas connu sa beauté. Il n'a pas goûté à sa saveur, sa douceur. Alors que l'autre, il a connu Allah. Il a connu l'islam. Il a connu sa beauté et il l'a renié. Il ne l'a pas accepté. Il a voulu sortir. Donc celui-là, c'est vraiment un ingrat. Celui-là, vraiment... il mérite de mourir. Il s'est détourné d'Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète et son paradis, ses délices. Naam. Mais tant qu'il n'est pas rentré en islam, il est libre. C'est un peu comme le guerrier. Maintenant, si nous, il n'y a pas, par exemple, un combat. Il n'y a pas un combat, il n'y a pas la guerre. Il n'y a pas le djihad. Tu n'es pas obligé d'y aller, ça. Mais une fois que tu es allé là-bas, est-ce que tu as le droit de t'enfuir? Est-ce que c'est permis de s'enfuir en islam? Le soldat est en face de toi, et tu t'enfuis et tu vas chez toi. C'est permis? C'est pas permis, c'est un grand péché. La même chose en islam. Tu es mécréant, tu n'es pas rentré en islam, tu es libre. Fais ce que tu veux, va où tu veux. Mais à partir du moment où tu as choisi l'islam, tu l'as pratiqué, tu l'as connu, il est interdit de se détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, voilà inshallah ta'ala. Pour aujourd'hui, on va se rencontrer, inshallah ta'ala, mercredi, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. D'ici mercredi, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala tout puissant, hein, qu'il nous préserve. Donc, ça change pas les cours. 21h30 chez vous, hein. Voilà, 20h30 à Alger, inshallah ta'ala. Lahda, une seconde, hein. Une seconde, inshallah ta'ala, je vérifie, une seconde. Car le Maghreb ici, je crois qu'il n'est pas 20h30. Lahda. Maghreb. 19h. Non, donc c'est pas 20h30, cher. Ici le Maghreb, c'est 19h. Donc c'est vers 19h30. 19h30, 19h45. Non, 19h30, 19h45. Ce n'est pas 20h30. Disons jusqu'à 20h, Inch'Allah. Maximum, le grand maximum, c'est 20h. Le grand maximum. Mais il est possible que je commence avant. 20h40, à peu près. Non, ce n'est pas 21h chez vous. Allahu alam. Non. Donc, d'ici mercredi, inshallah ta'ala, on verra. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.